It's such a global sport. And unlike in the US, there's no unions. So there's a market for top players in every country in the world. And each one of those markets is different. You've got the Portuguese market and the French market and the English market. You know, the ability to go to these markets. And then, of course, obviously, you have to build a team. And so I think there's a lot that we've learned about the different markets, the global aspect of it all.
Un club territorial. C'est un mot très à la mode depuis quelques années. Mais nous, à Strasbourg, on a vraiment construit le club sur cette territorialité. C'est-à-dire Strasbourg, la métropole et la région Alsace. Ça a été notre force.
Bonsoir, bienvenue dans Radio Machin Chouette, la nouvelle émission du Stoub. Émission, oui, on remet un coup de rosé. On a tout changé, sauf les bonnes choses. Maintenant, on boit du rosé, on mange des bullies, bien sûr, et on répond vraiment aux questions des Stoubistes, car c'est là le plus important. Effectif. Pléthorique, recrutement multimodal. Rouliane est là. Bonsoir. Voilà. Et il y a bien sûr Monsieur R qui est là aussi.
Bien sûr.
Voilà. Et Monsieur Liane.
Exactement, lui-même.
Voilà. Alex Co est là aussi.
Bonsoir.
Voilà. Et bien sûr Cor du Stoub.
Bonsoir.
Et Monsieur C. Monsieur C.
Bonsoir.
Voilà. Et bien sûr, pour vous servir, Rachmaninoff et Paolo. Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà. Donc, énorme.
D'émission.
Voilà. Alors, JP Darky d'émission.
Exactement.
JP Darky qui a tout plaqué.
Il a envoyé tout chier. Il a envoyé Dieu et la Terre. Tout le monde est pas. Je suppose qu'il est parti en vacances. Soi-disant, ce serait des problèmes professionnels qui l'empêcheraient d'être présent ce soir. On sait très bien que ce n'est pas vrai. On sait très bien qu'il est aux Bahamas avec les doigts de pied en éventail, avec un cocktail, avec un petit quoi là,
un parasol,
un mini parasol dans le cocktail.
Ça a rien à voir avec la mallette qu'il a reçue, comme tous les radiofobistes du dernier épisode.
Ouais. Bah, d'ailleurs, il y a deux cons qui sont revenus. Voilà. Émission, bien sûr, de reprise. Il fait chaud, il fait beau. Marc Heller est encore là. la cloche. Un sommaire basique, fashion radio Stoub, entrée plat dessert. On va commencer par le plus important, le match d'ouverture à la Méno. On reçoit le grand olympique lyonnais de Jean-Michel Aulas.
C'est ça.
Avant. Ah, bah oui, mais non, il n'y a plus Jean-Michel Aulas.
Maintenant, on accueille l'Olympique Lyonnais qui a la masse salariale encadrée. C'est aussi c'est une nouveauté, ça. Donc, on a un grand Olympique Lyonnais qui avait recruté quasi personne.
Ouais.
Ils ont pris un gars, je crois.
Oui, c'est le gars qui est sorti sur blessure pendant le match. Donc, voilà. Donc,
je ne connais pas son nom, mais...
Je ne sais plus non plus. Mata, peut-être. Peut-être bien.
Peut-être. Clinton Mata, je crois. Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Et on les reçoit et globalement le climat d'avant-match c'est un peu morose de leur côté. Ils ont fait une prépa où ils ont quasiment perdu tous leurs matchs.
Zéro but.
Voilà. Bon,
zéro but marqué, ça c'est la stat que j'avais retenue.
Ils avaient été privés de certains de leurs joueurs, là, leurs joueurs offensifs pendant la prépa, mais quand même quoi. Il y avait eu une déclaration de Blanc qui avait été un peu coupée dans la presse où il disait je sais pas si je serai encore là pour le match contre Strasbourg. Et en fait, ils se sont présentés à la Méno où tu sentais qu'ils n'avaient pas l'air très très bien, quoi.
À part que globalement, quand tu regardes, on a la composition d'équipe et
ouais.
on voit que ouais. Offensivement, ça a quand même de la gueule. Mais défensivement, donc il y a pas le gardien, il manque Lovren, enfin il manque un peu de monde.
Lopez blessé, c'est
on
ça.
On parlait de recrues, Caetachar en défense, je crois qu'il est arrivé cette année, non?
Oui, bah, je pense qu'ils veulent refaire une défense centrale 100% croate. Donc 100% viril et 0% vitesse, quoi. C'est l'objectif.
Ça me rappelle un joueur serbe, ça.
Ouais, qui commence par un M et qui finit par un C.
Ouais, par un Vich même.
Ouais, par un Vich, ouais. Ouais,
c'est Matic.
Presque. Et effectivement, dur sur l'homme, mais niveau vitesse, pas grand-chose. Et ouais, mais à part effectivement la partie défensive et le gardien, un truc, le milieu, c'était quand même assez costaud, l'attaque aussi, donc sur le papier, bon bah même s'ils ont fait une prépa dégueulasse, c'était pas gagné, sachant que nous, de notre côté, on a parmi les nouveaux dans l'équipe, on a quoi ? On a notre défenseur central gauche Silla qui est nouveau, on a Demingue au milieu de terrain et on a Emenga.
On avait un par ligne, donc
Emenga.
Un nouveau par ligne.
Sachant que quelques jours avant, on a eu le départ de Diallo, mais on en parlera un petit peu après.
Donc on parlera effectivement consacré au mercato très actif du côté.
Donc on a effectivement un nouveau par ligne. Donc globalement, il y a rien de nouveau sous le soleil. Donc l'équipe a pas été révolutionnée. Elle démarre en 5-3-2 comme on avait l'habitude de jouer aussi, sur laquelle s'est appuyé notre ami Patrick Vieira pour son premier match sur le banc du Racing officiel.
Alors Patrick Vieira, question, parce que alors moi j'étais effectivement à l'étranger en train de superviser des joueurs. J'ai donc suivi le live de nos confrères de l'équipe. Et Patrick Vieira, costume ou jogging?
L'entre-deux, c'était pas vraiment costume, mais c'était manche longue. Manche longue sous 28 degrés, donc belle performance. Mais non, plutôt habillé casual.
Casual.
Donc. Casual.
Un petit peu à la
Thierry Doré.
Ouais, non, c'est important. Ça aussi, ça laisse présager de l'avenir du club. Hein. On n'est pas là pour déconner.
Mais c'était pas manager à l'anglaise en costume.
Ouais, parce que je m'attendais presque à le voir en costume, mais ou en jogging.
Non.
Hop. Donc voilà, compo, pas de. Donc avant match, un petit peu. Donc,
petite surprise sur la compo, peut-être. On s'attendait peut-être pas à voir Motiba commencer.
Bon. C'est vrai, par rapport à Gamero, on aurait pu imaginer que ce soit Gamero et Mega. Et d'ailleurs, les DNA se sont fait attraper parce que c'est ce qu'ils avaient annoncé. C'est ce qu'ils avaient annoncé dans la presse. La seule surprise, effectivement, de la compo pour moi, c'est ça.
Ouais. Mais qu'on peut pas dire c'est bon point pour Patrick Vieira, qui avait dit genre Motiba, il a bossé à l'entraînement, il a mérité sa place. Un coach qui fait confiance aux joueurs qui se dépensent. Motiba, qui est l'archétype du joueur qui se dépense.
Ouais. Ouais, enfin.
Et spoiler, il n'aura pas à le regretter, mais effectivement, ouais, c'était. On a l'impression que par rapport à ce qu'il avait prévu, ou peut-être en la complémentarité entre Emenga et Gamero, est peut-être pas moins évidente. Je sais
oui,
pas.
Enfin, s'il faut parler de la complémentarité entre Emenga
et. On peut en parler.
qui a été, pour ainsi dire, inexistante avec Emenga, qui, je pense, ça venait le plus grand mal à surtout pas faire la moindre passe à Motiba, c'était quand même assez impressionnant. Après, c'était son premier match, hein. C'était leur premier match tous les deux ensemble. Mais...
Vous voulez peut-être faire trop envie de marquer pour le premier match.
Ouais.
C'est un joueur un peu jeune.
Et ça reste un gamin.
Ouais, voilà, joueur jeune.
C'est ça.
Mais ce sera une vraie clé cette saison si on continue dans ce système-là. Moi, j'avais assisté au match contre le Werder en prépa, là, le dernier match de prépa, et c'était aussi très très compliqué devant entre les deux attaquants qui se marchaient beaucoup dessus et qui combinaient pas, quoi, en fait. Alors j'ai plus en tête qui étaient les deux attaquants en ce moment-là, mais
il y avait peut-être
encore un certain Habib des.
On en parlera aussi. Alors les choses importantes, je crois qu'il y a des questions Minitel. JP Larky en direct de la Suisse et des Bahamas.
Oui, Blourg, Gigas. je fais bien. Alors première question sur le très bon site racing.stube.com de Kou. Hein. Peut-on désormais considérer les matchs contre l'OM et l'OL comme des derbies américains? C'est vrai qu'on n'a pas dit ça dans le contexte de l'avant-match. Deux propriétaires américains maintenant.
Alors, même plus, deux propriétaires américains dans le cadre de multi-propriétés.
Alors, je sais pas, le Textor, il a plusieurs clubs. Je sais plus trop ce qu'il fait parce qu'il me fait. Enfin, le mec, il a pas de pognon déjà, ça on sait.
Il a pas de pognon, mais je crois qu'il y a un fonds de pension qui a des parts à la fois à Crystal Palace, à la fois à Lyon et à la fois dans un club belge dont m'échappe.
De toute façon, il y a une différence qui est quand même fondamentale, c'est que dans le cadre de l'Olympique Lyonnais, c'est Lyon qui est le vaisseau amiral. Le fonds d'investissement, effectivement, on n'est pas sur le même moyen. Clear Lake, en tout cas, alors après à voir quelle sera la part attribuée au Racing, mais c'est une structure beaucoup plus grosse que celle de Textor à Lyon, quoi. Mais en tout cas, voilà, deux équipes américaines.
Voilà, donc un petit, pas dire Radio Stubb l'avait prédit, mais Mais quand même, Stroutim l'avait dit qu'effectivement, les Américains prennent un petit peu pied dans le championnat de France. À noter, alors, vu qu'on est sur la multipropriété, un sujet peut-être tabou, parlons-en, quand même, j'ai l'impression d'être Thierry Ardisson ou Brigitte Lay qui fait une émission. Une banderole contre la multipropriété durant le match, sorti par les ultras dans la lignée de leur communiqué,
ouais,
voilà, qui disait pour notre indépendance et nos valeurs, non à la multipropriété. Grosso modo, je résume si je me rappelle bien exactement la banderole.
Bah, la banderole et le communiqué sont effectivement axés sur la partie multipropriété, mais qui est en fait qu'un seul des pans de la stratégie, on va dire, du fonds d'investissement, puisqu'il y a d'autres stratégies. Hein, bon, on va pas refaire
J'ai retrouvé comme complément d'information, c'est Eagle Football, le fonds de pension qui est derrière. Et donc, c'est Crystal Palace, Botafogo au Brésil et Molenbeek, bien sûr, les bons vieux Molenbeek en Belgique, en complément d'information.
Grand club.
Crystal Palace, donc en fait, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on maintient Lyon comme vaisseau amiral? Je sais pas. Bon, je sais pas quelles sont les participations, si c'est du 100% ou.
Non, je crois pas que c'est du 100% dans tous ces clubs-là.
À mon avis, par contre, en ce moment, 20% de Crystal Palace, ça doit valoir plus que 100% de l'Olympique Lyonnais.
Ouais, ça, c'est certain.
Donc effectivement, il y avait cette banderole au stade pour dire. Mais il n'y a pas eu que la banderole au stade, il y a eu quelques jours avant un communiqué était sorti sur les réseaux, co-signé par toutes les associations de supporters de Strasbourg, où, si on le résume simplement, l'idée c'était de dire non à la multipropriété. C'est rien contre Blueco en particulier, il n'y a rien de personnel avec Blueco, mais c'est le principe même de la copropriété qui est rejeté par les associations de supporters. Et l'autre moment important à retenir de ce communiqué, c'est ils ont dit ben c'est fait, mais on va rester vigilant à ce qui va se passer par la suite et selon les développements qui vont avoir lieu pendant cette saison ou les saisons prochaines, les associations supporters se réservent le droit de s'exprimer et de dire qu'ils sont contents ou pas contents sur le sujet quoi. En tout cas, c'est vigilance et non à la multipropriété, puisque la multipropriété c'est les principes d'équité et de justice sportive qui sont mis à mal, et là c'est une question de principe où là vraiment ils le refusent, et ils sont pas dupes, ils savent très bien que les moyens qui ont été mis à Strasbourg cette année sont des moyens sans précédent, là il n'y a rien à dire, donc ils crachent pas dans la soupe pour autant, mais juste que pour une question de principe, la multipropriété c'est non, donc ils offraient ironiquement la possibilité à nos amis de Blueco de revendre Chelsea pour ne garder que Strasbourg, hein,
ce qui serait un bon deal,
c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de multipropriété et ils s'occuperaient de Strasbourg à 100% et les fonds arriveraient de manière, donc ça veut dire que ils ne sont pas non plus les associations de supporters, comme j'ai pu le lire, le football à papa, le football de grand-papa où il n'y avait pas d'argent et tout, non, ils ne sont pas naïfs, ils savent bien qu'en 2023 pour faire du football il faut des capitaux, mais qu'ils restaient vigilants par rapport à ça et par rapport à la multipropriété. Donc là, c'était ce chapitre-là. Donc ça reste une banderole, on va dire, somme toute...
Gentil.
Ouais.
Mais sur l'idée, je pense que le combat va pas être lâché, à mon avis, dans les semaines à venir, ce n'est que le début de cette partie-là, sans pour autant attaquer frontalement les gens de Blueco, qui représentent la multipropriété à Strasbourg, mais qui ne sont c'est une question de principe, c'est pas une question de personne. Pas une question de personne.
Bah, de toute façon, il y a même pas vraiment de personne, parce que on parle beaucoup de Todd Boehly comme la personnification, le nouveau propriétaire du Racing, alors qu'en réalité, c'est pas exactement ça. Hein. Blueco est détenu en majorité par Clear Lake, donc qui est un fonds d'investissement. Donc, ce que ça veut dire factuellement, parce que ça, je pense qu'il faut quand même le rappeler, c'est que c'est pas les fonds propres forcément de Todd Boehly, même s'il y a une partie de son argent, mais c'est aussi des actions qui appartiennent donc à ce fonds d'investissement. Donc c'est
lui, il est là pour faire fructifier l'argent de ses clients,
pour diriger, piloter le fonds d'investissement Blueco.
Oui.
Voilà. Et puis après, pour en revenir à ce communiqué et à la banderole. Enfin, moi, à titre personnel, je m'attendais même à une réaction un peu plus virulente. Je trouve que la réaction est assez raisonnée. La multipropriété, oui, effectivement, c'est un des problèmes. Et puis, le problème qui va potentiellement se poser, alors effectivement, il faut des capitaux dans le foot. Hein, ça, personne n'est dupe. Mais la question à se poser, c'est... Enfin, moi, personnellement, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi il achète le club. Et la réponse, On va pas la donner maintenant, on l'a déjà donnée dans le dernier épisode, on la donnera peut-être dans le suivant, ou peut-être dans un article à venir sur le Stout, mais a priori, c'est pas pour le moment de la choucroute. Mais on peut en revenir à Lyon.
Si tu veux. On peut revenir à Lyon. Après, on peut même glisser que quand on entend des rumeurs comme aujourd'hui, comme quoi Miami, qui est dernier de sa poule de MLS, plus ou moins, j'y connais rien, ça m'intéresse pas, mais pour être invité à la Copa Libertadores, qui réunit les clubs sud-africains, et que l'Arabie Saoudite pourrait avoir des places dans la prochaine Ligue des Champions.
Oui.
On se dit que effectivement,
les outrances sont possibles.
En fait, le football se permet toutes les outrances avec une seule, genre un seul totem. C'est pour le moment, c'est l'argent. Genre, en fait, c'est un petit peu aussi ce qui peut être dérangeant dans ce qui se passe au Racing, c'est qu'effectivement, l'argent est roi. Au nom de l'argent, on peut tout accepter. On peut tout accepter au niveau de l'argent. Et peut-être demain, au niveau, on pourra tout endurer au nom de l'argent.
Bah là, vas-y, je t'en prie. Juste pour compléter ce que tu disais par rapport à Todd Boehly, effectivement, a priori, c'est pas la tête de pont de Blouko à Strasbourg. Mmh. A priori, Marc Keller a en contact direct plutôt Bedad Egbali, qui est le big boss, celui qui possède les plus grandes parts de Clear Lake. Mmh. Donc vraiment le big boss. Et c'est lui qui sera le contact direct de Marc Keller, et c'est avec lui qu'il a négocié et pas avec Todd Boehly. Todd Boehly, a priori, se consacre vraiment à la partie de Chelsea. Et il est là, il fait partie du tour de table, mais en tout cas on a plus un lien direct avec on va dire le big boss de le big boss de Clear Lake.
Après, leur métier, que ce soit cette personne là ou Todd Boehly, c'est le même. Et pour conclure par rapport à ce que tu disais que le seul totem c'était l'argent, c'est à dire que ces gens là se travaillent pour des fonds d'investissement. Alors c'est mal ou c'est bien, l'argent c'est pas forcément un gros mot, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu vas à la boulangerie, tu vas acheter ton pain, le boulanger son métier c'est faire du pain, Todd Boehly son métier c'est faire fructifier les capitaux, enfin c'est pas autre chose,
c'est faire de l'argent,
voilà. Donc ils sont plutôt bons dans ce qu'ils font. Donc faut regarder ce qu'ils ont fait avec d'autres sociétés qui ont rien à voir avec le sport, hein. Todd Boehly a une carrière assez longue avant de s'intéresser au sport, et c'est des gens qui sont plutôt bons dans ce qu'ils font, qui savent faire de l'argent, mais ils sont là pour ça. Il peut y avoir des répercussions, même positives pour le club ou négatives, ça on pourra en discuter, mais en tout cas ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est leur métier, ils sont là pour ça, voilà.
On va repartir sur le sportif. Donc une compo, on en a parlé finalement somme toute classique. Entame de match, si je cite nos confrères d'un journal national dont le nom, où travaillait Pierre Ménez il y a longtemps, Lyon au point en tête à la première mi-temps.
Pas au mi-temps, mais par contre, le début de match, on va dire les dix premières minutes au moins, Strasbourg rentre bien dans sa partie. On est plutôt pas mal, on a une bonne occasion déjà avec Mega qui effectivement oublie notre ami Motiba la première fois. On est plutôt pas mal, Lyon s'approche pas trop, plutôt pas mal, et on va dire les 25 dernières minutes de la mi-temps, on a quand même une assez grosse domination lyonnaise. Qui se concrétise avec il y a une frappe cadrée où celle c'est pas vraiment de Cherki ou celle en toute honnêteté n'est pas en danger. Par contre quelques mouvements devant la surface qui donnent rien, mais les mecs pénètrent pas, mais c'est, et une fois où il y a une vraie pénétration dans la surface et Cels du talon ou je sais pas quoi, il arrive à détourner le ballon sur le poteau, où là on a vraiment c'est vraiment pas passé loin. Mais globalement au point à la mi-temps, effectivement on se dit bien content de ne pas être mené 1-0 par l'Olympique Lyonnais, parce qu'ils ont eu la grosse occasion, et globalement ils ont vraiment mieux fini la mi-temps.
Ouais, je trouvais qu'on était ultra dominé sur la mi-temps. Alors ça débouchait, comme tu disais, effectivement sur pas beaucoup d'occasions. Concrètement, j'ai pas le souvenir en dehors de la période de Cels d'en voir beaucoup d'autres, mais par contre techniquement et physiquement c'était au-dessus. Moi j'ai trouvé que c'était au-dessus de tout le match, mais que c'était flagrant en première mi-temps et effectivement un peu moins en deuxième. À ce sujet, une question de Ajax.fan sur RacingStube. Va-t-on voir la papate de Papaté sur le jeu du Racing? Ah non, Papaté. Ah, je pensais qu'il parlait de Vieira. En fait, il parle de Todd Boehly. D'accord.
De qui?
Non, je pensais que c'était une question sur le.
Sur Vieira, moi aussi, ouais.
Sur Vieira. Mais en fait.
La papate de Papaté.
Papaté. C'est qui Papaté?
Bon, ça doit être Vieira. Bon. On va dire que c'est Vieira.
On va dire que c'est Vieira.
Est-ce qu'on a senti effectivement la patte de Patrick Vieira?
Sur la première mi-temps, non, puisqu'on démarre en 5-3, en 5-3-2 comme faisaient ses deux prédécesseurs, voire trois prédécesseurs. Rien de nouveau sous le soleil, on joue à peu près pareil. On essaye de partir propre depuis le gardien, on relance, on a toujours une sentinelle, deux mecs sur les côtés. Et dès qu'on n'arrive pas, dès qu'on est embêté, on balance devant sur les attaquants en espérant qu'un attaquant arrive à attraper la balle. Donc on était vraiment bien embêté. Mais bizarrement, à partir du début de la seconde période, cette même tactique, ces mêmes joueurs vont donner des résultats complètement différents. C'est-à-dire que quand ils reviennent de la mi-temps, manifestement il y a eu un recadrage tactique et il a demandé de presser beaucoup plus haut la défense lyonnaise qui était loin d'être sereine.
Qui avait beaucoup donné physiquement en première aussi, parce que pour le coup, en premier temps, c'est eux qui pressaient de manière assez intense.
Et là, du coup, on s'est mis à récupérer des ballons beaucoup plus haut, dans les 30 mètres, voire moins. Et du coup, ça nous a donné des possibilités. On a eu, il faut le signaler, un Delaine qui a été...
Excellent,
peut-être pas, mais en tout cas, il a été, il a proposé des solutions. Il a essayé de déborder à 2-3 reprises. Un de ces débordements va donner la faute évidente de l'arrière droit. Donc entre temps, effectivement, l'arrière latéral recrue lyonnaise est sorti sur blessure, ce qui est quand même pas de bol. Et ils l'ont remplacé par ce joueur-là que je connaissais pas, qui a priori a été qui était dépassé complètement par par Delaine, par la vitesse de Delaine. Et donc du coup, il a fait une grosse faute et notre ami Laurent Blanc l'a complètement dézingué en conférence de presse d'après match en disant que la défaite, c'était de sa faute. Il avait provoqué le coup franc. Et suite à ce coup franc-là, qui est complètement débile, on a pris un but. Et donc, du coup, le match était plié. Donc, grosse ambiance à l'Olympique Lyonnais, bien sûr.
Et ce mec-là était déjà sur le banc, donc devait déjà avoir la confiance au plus haut niveau. Et...
Ouais, là, le mec, il est bien. Le mec est bien.
Mais par contre, petit aparté sur l'Olympique Lyonnais, ils ont tous les... Enfin, ils réunissent tous les critères de la saison, merde.
Ah bah, ouais.
Genre changement un peu foireuse de gouvernance, entraîneur qui en a plus rien à foutre de rien depuis des années. Le premier match où tu domines mais tu perds en perdant une recrue majeure sur blessure, ça ressemble à nos débuts de saison foireux.
Ouais, mais alors si tu veux voir les choses de manière positive, moi
je veux qu'ils prennent.
Non, bien sûr, mais moi je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de phases de jeu intéressantes de leur côté en première mi-temps. Franchement, ça jouait bien.
Mais globalement, les joueurs, quand on parle des joueurs de l'Olympique Lyonnais, on parle de Lacazette, même Cherki, Barcola et tout.
Et même les jeunes milieux,
Ouais, effectivement, les deux, Le Penant et
Cacré.
Évidemment, c'est un niveau de foot qui est globalement supérieur à la plupart des joueurs de notre effectif. Donc c'est normal que ça paraissait bien. Mais ils ont quand même pour l'instant un gros manque de confiance. On va dire que ça va pas. S'ils arrivent l'année dernière, ils ont fait un petit peu ça. Hein. Ils ont oscillé entre le franchement très mauvais parce qu'ils manquaient de confiance à des super matchs et en fin d'année, finalement, ils sont pas si loin de l'Europe que ça, mais ça n'a pas
fait. Ils ont repris confiance, mais là,
voilà. Mais du coup, effectivement, en seconde période, ça a mieux démarré et effectivement, il y a ce coup franc provoqué par Delaine. Honnêtement, en réel, je pensais que le coup franc était touché par Emenga au premier poteau. J'étais persuadé que, et quand je vois qu'Emenga, il va se jeter dans les bras de trucs, j'ai compris qu'en fait c'était un coup franc direct, mais sur le coup, j'ai vraiment cru que c'était une tête, en fait, de l'attaquant.
Ça lui aurait fait du bien, ça aurait sauvé un petit peu son match, peut-être. Mais après, Bellegarde l'a mérité, parce que Bellegarde...
Oui, il a été très bon.
Il a été très bon.
Et une fois qu'on a mené au score 1-0, et ben, des fois, il nous arrive de nous recroqueviller un petit peu, et là, j'ai trouvé que c'était pas si mal. On a continué quand même sur la même longueur d'onde et sur une grosse erreur de défense, hein, puisque Persic trouve notre ami Bellegarde tout seul sur le côté droit, mais littéralement tout seul, oublié par tout le monde.
Tout seul, je me permets
couvert par le fameux arrière droit là qui était un petit peu à la rue.
Je me permets juste, parce que t'as raison, il est entièrement seul, il est tout seul parce que en fait il y a de l'espace qui est libéré de manière assez intelligente par Gamero si tu regardes l'action. On reviendra peut-être sur Gamero plus tard, mais comme quoi, quand t'as un certain âge, tu peux encore avoir certaines sciences de la peine.
Parlons de Kevin Gamero. Hein.
Bah, il est rentré justement au relais de Menga, là, qui est sorti, je sais pas, c'était quoi, la 70e, quelque chose comme ça, il restait 20 minutes.
Puis, le pauvre a eu un match vraiment très difficile. Après.
C'est un premier match.
Bah, il a fait des mauvais choix. Mais on sent peut-être qu'il y a un petit quelque chose, un petit potentiel.
Tu sens que potentiellement, il y a quelque chose, effectivement.
Et effectivement, après, du coup, Bellegarde qui déborde, il centre parfaitement bien pour Motiba, seul au deuxième poteau, comme un peu tous les buts qu'il a marqués en prépa d'ailleurs, hein,
ouais.
À peu près tous les buts marqués en prépa par truc, mais il faut être là dans le bon timing au bon moment et il arrive à doubler le score. Donc à ce moment-là, c'est un peu inespéré hein, parce que par rapport à la mi-temps, la première mi-temps, là, se retrouver avec 2-0 d'avance.
Là, on se dit Lyon est KO, ils n'ont pas marqué de but en préparation. C'est fini, non?
Mais là, il y a la papate, il y a la fameuse papate de Patrick. Ouais. Là, il décide de changer complètement la tactique et de passer dans son fameux 4-3-3 qui a priori est son système préférentiel.
Ouais.
Et là, on sent que les joueurs étaient pas prêts. Ça s'est vu tout de suite. Les joueurs étaient pas prêts et
Déjà les entrants étaient pas dans le groupe depuis très longtemps, manquaient peut-être un petit peu de jus, d'automatisme.
Ouais.
Alors même si effectivement Joe Gabriel.
Gilbert sort, c'est ça?
Gilbert sort a priori.
Après ça, c'est du poste pour poste, c'est ouais. Là qui rentre.
Mais par contre,
mais un peu fâché. Un peu fâché quand même, on a l'impression. Ouais. Un petit peu fâché. Et Senaya rentre, ouais, et après on a les. Alors c'est pas au même moment, mais il y a effectivement Gabriel Angelo, parce que c'est Gabriel Angelo, ouais. Si on a bien compris, il n'est pas Angelo Gabriel, d'après Jean-Luc, hein, notre magnifique speaker, qui rentre, et un petit peu après, il y a Dylan Bacquois qui rentre aussi pour aller sur l'autre aile, pour faire le deuxième ailier, mais cette fois-ci l'ailier gauche. Et on se retrouve avec Gamero effectivement au centre, les deux ailiers et puis le milieu de terrain. C'était déséquilibré et on sent que et donc du coup on a plus vraiment mis le pied sur le ballon. On a passé très peu de temps dans leur moitié de terrain. Ça a été vraiment compliqué, on va dire. Les 20 dernières minutes, ouais. Ça a été vraiment compliqué. On n'a pas vraiment vu le potentiel des nouveaux rentrants.
Est-ce que Gabriel Angelo...
À un moment donné, sur une occasion, effectivement, il a pris la balle, il est parti en dribble, il a pris les deux premiers Lyonnais, il les a mis dans le vent en deux appuis, enfin c'était assez dingue, mais après sur le troisième appui, il s'est fait couper en deux par un Lyonnais, et bienvenue en Ligue 1, quoi. C'était un peu le message que ça voulait dire. Quoi.
Alors après, c'était un peu l'attraction du mercato, j'ai observé un peu plus précisément et évidemment il vient juste d'arriver, évidemment c'est un premier match, ça présume pas de rien pour la suite, mais il était vraiment sur le plan défensif à marcher à côté de l'action, était à 2 mètres de lui, il n'était pas concerné quoi. Je pense qu'il va falloir qu'il prenne le pli à ce niveau là quoi.
Il était pas encore en phase d'adaptation.
Ouais. Ah. Mais il nous apporte déjà la lumière.
Voilà. Il faudrait qu'il nous apporte la lumière.
Peut-être qu'il faudrait qu'il apporte des bières aussi.
Ça va ?
Aussi.
Ah. Mais réduction du score lyonnaise.
Logique. Logique, celle, ça fait quelques miracles dans la surface. Et là, sur une action où, encore une fois, comme toujours, il y a une petite faute de défense.
Ouais.
C'est mal défendu. Et Tagliafico, il se retrouve tout seul au deuxième poteau. Il n'y a plus qu'à la pousser dans le but.
Ouais, l'Argentin. Ouais. Mais. Logique, oui. Alors, en toute façon, moi, la logique du match, je m'attendais à ce que le Racing ne gagne pas, enfin, ne mérite pas forcément le résultat au vu de la première temps. Après, on gagne, tant mieux. Mais sur le contenu, moi, je m'attendais pas à ce qu'on prenne 3 points. Il y a une question de. Alors, je la pose parce que c'est quand même l'auditeur numéro 1 des radios, je trouve.
Alors, est-ce qu'il s'agit de JP Larky? Ah non.
Ah non.
C'est Nicox, peut-être.
Ah, voilà. Nicox. Alors, Ross 3.
Ross 3 qu'on salue plus que 30 jours avant son retour.
Êtes-vous aussi sceptique après le premier match?
Sceptique comme la fosse.
Voilà, exactement. Je pense qu'on peut répondre juste ça. C'est bien.
Ouais, comme la fosse.
Alors, ouais, moi, on peut revenir sur l'émission polémique. J'ai réécouté l'émission, hein, c'est très rare. Généralement, le premier jet est tellement magnifique que je n'écoute pas. Mais il n'y a pas de scepticisme sur le projet sportif à court terme. Genre, à court terme, tout le monde, même les plus virulents n'ont pas émis de chiffon rouge en disant attention, on va vendre tous les joueurs Bluko va récupérer 25 millions d'euros et se barrer avec la caisse. Comme aurait pu le faire Jafar Hilali à l'époque, ou Philippe Ginesté. Non, c'est vrai que c'est pas sceptique, tout se déroule selon le plan.
Et puis c'est difficile de faire le difficile. Tu es une équipe avec des nouveaux joueurs, avec un nouveau projet et tout, tu tapes Lyon qui normalement devrait être a priori, même si cette année c'est un candidat pour la Coupe d'Europe, une équipe qu'on a toujours du mal à battre.
C'est vrai.
Même si tout n'a pas été parfait, on les a quand même battus.
C'est vrai. Moi, pour faire un peu le sceptique, c'est vrai que par contre, quand j'ai vu la composition au début du match, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir cette réflexion qui est pas forcément juste, mais je me suis dit, si tu fais le bilan à un an, on a investi là sur ce mercato-là environ 50 millions. Et il y a un an, c'était quoi notre 11? C'était des Thomasson, des Ajorc, des
même. Est-ce que le 11
voilà,
était meilleur cette année ou au premier de l'année dernière?
C'est pour ça que je parle de composition. C'est parce que quand tu vois la compo, tu te dis bon, on a fait des investissements sans précédent. Et en fait, est-ce que réellement t'as le sentiment que l'équipe est plus forte? Alors la réponse est évidemment non, mais il y a des paris, enfin il y a des joueurs d'avenir, donc forcément le niveau à l'instant T sera peut-être pas forcément plus fort. Mais ça c'est.
Est-ce que à mon sens, tu ne peux avoir une réponse qui commence à avoir du sens que je dirais fin septembre? Quand tu as quand même déjà aligné pas loin d'une dizaine de matchs, un peu moins, mais là tu verras un petit peu. Genre ainsi là, il a alterné sur ce match-là par exemple des gestes de classe incroyables et des boulettes de relance qui sont XXL. Quoi. Et il a des scorings qui sont dingues pour un mec qui est censé valoir 20 millions. Alors, 20 millions, c'est la valeur qu'a bien voulu lui donner le Racing Club de Strasbourg pour son transfert. Est-ce que ce gamin de 20 ans, il vaut vraiment 20 millions d'euros sur ce match-là? Évidemment que non. Mais peut-être que une fois qu'il aura pris la mesure, on va dire de ce qu'est la Ligue 1 comme championnat par rapport au championnat belge où il vient, de prendre la mesure des attaquants en face qu'il a en face, il avait Lacazette, hein, le mec qui était un attaquant international et qui l'année dernière a scoré combien 22, 23 buts, c'était pas le truc. Il a quand même du lourd quand on va jouer des équipes un peu plus faibles qui joueront plutôt la deuxième partie de classement. Peut-être qu'il va pouvoir tranquillement se friser les moustaches parce que ça sera extrêmement faible. Mais quoi qu'il arrive, moi, ces joueurs-là qui viennent d'arriver, ils viennent tous de championnats un petit peu exotiques ou étrangers, ils ne connaissent pas encore la Liga.
Ça fait partie du plan.
Donc voilà. Donc effectivement, sur ce premier match-là, bien sûr que ce mercato-là à 55 millions, il ne remplace pas l'équipe type de l'année dernière. Pour l'instant, bien sûr. Mais on est loin de la vitesse de croisière.
D'autant que, c'est reconnu maintenant que depuis 2-3 ans, le paramètre âge et potentiel prend de plus en plus de place dans la valeur d'un transfert par rapport au niveau effectif ou supposé d'un joueur de foot pur, quoi. Donc effectivement, les joueurs très jeunes.
Alors, une dernière question par Ayoshtoub. Ouais. Avant de passer au point le plus important de ce match de rentrée, justement, ça me faisait penser, est-ce que le meilleur recrutement que le Racing ait fait, c'est peut-être pas le Patrick Vieira et son staff? Parce que quand j'écoute votre restitution du match, ce qui me marque, c'est qu'on a bouffé Lyon en deuxième mi-temps, notamment physiquement. Est-ce qu'on n'est pas en place?
On va dire sur la moitié de la deuxième mi-temps, pour être honnête.
Mais est-ce qu'on n'est pas prêt? Parce qu'on a une vraie constitution maintenant de club professionnel avec, on n'a pas bricolé la préparation, Vieira a mis, c'est aussi où mettre le curseur de sa prépa et qu'il a une équipe qui est prête maintenant.
Pour te répondre là-dessus, déjà, il peut que faire mieux parce que c'était quand même un des sujets de la dernière saison et peut-être l'une des clés d'explication du mauvais classement de la saison dernière. Donc, mais oui, effectivement.
On n'avait pas de joueur qui avait des crampes, on n'avait pas de joueur qui avait l'air complètement cramé sur ce premier match-là.
Alors qu'on gagnait dernière. On gagnait 2-1, donc souvent, quand tu gagnes 2-1, que c'est un peu chaud, tu te mets souvent à avoir des crampes.
Ah, tu nous parles de ton match cette semaine?
Des footballeurs en général.
Vraiment, on n'avait pas l'impression qu'ils ont pêché physiquement. Ça, c'est certain. On avait du mal dans le jeu, mais pas physiquement. Alors qu'effectivement, l'année dernière, ça a été très compliqué pendant des mois et des mois. Mais c'était la faute à la Coupe du Monde, tu le sais bien.
Oui,
c'était l'excuse Coupe du Monde.
Et peut-être que les organismes un peu plus jeunes, faut le reconnaître parce que c'est vrai aussi, on donne moins de temps de rodage que.
Ou bien une prépa
en 35 ans.
Une prépa en Autriche sous 14 degrés, ça va peut-être aider aussi à pas jouer des matchs amicaux sous 35 ou 38 degrés comme c'était le cas l'année dernière. Puisque c'était une des théories avancées pour le fait que les joueurs étaient extrêmement fatigués et ont puisé dans leurs réserves pendant la préparation.
Bon, en tout cas, pas le but.
En tout cas, là, c'était vraiment pas un facteur sur ce match-là.
Alors, revenons maintenant aux choses sérieuses.
Les vrais sujets. Les joueurs ont réussi leur préparation, étaient prêts physiquement, ils n'avaient pas soif pendant le match.
Voilà, le buvette gate. Alors, il y a des questions, Minitel, en poison. JP Larky.
Oui, Blourg. Blourg, pardon, je.
C'est difficile le duplex, hein, genre depuis les Bahamas, on n'a pas une super.
Oui, effectivement, c'est très difficile. Alors,
on dirait un peu Gargamel quand tu fais JP Larky, je trouve ça.
Alors, je suis loin d'être aussi efficace que lui.
C'est parce que lui, il fait des fiches manuelles, je crois.
Ah oui, d'accord. Ceci explique cela. Alors, question de Sigur. Malgré le rachat par Glouco, sommes-nous en droit d'espérer notre traditionnel buvette gate en début de saison?
La réponse est dans la question.
Je compléterai avec un deuxième radio chemise, Guillaume Hirschler, sur Twitter. Y a-t-il eu un mercato au niveau des buvettes de la Méno? Beaucoup se plaignent de la lenteur du service dimanche. On regrette l'afficheur d'ailleurs. Donc là, il y a double question.
Il y a double
plainte. Ouais, c'est la lenteur, donc premier sujet. Et deuxième sujet, c'est le nouveau fournisseur.
Cronenbourg
à la place de l'afficheur, c'était avec
Alors, pour vendre de la 1664. Et on l'a pas dit avant, mais on peut maintenant commander des shops de 1 litre. Voilà.
Ce qui est
bien pour notre ADN.
Mais par contre,
prochainement.
Ça dépend dans quelle tribune.
Ah oui, parce qu'il
y a eu aussi certains, le communiqué du club que vous n'avez pas raté, qui a dit que suite à une répétition d'incidents, il n'est plus possible de boire des gobelets de bière dans la tribune ouest.
Alors c'est juste la bière ou tous les gobelets?
C'est les gobelets problématiques. Donc effectivement, c'est pas forcément que la bière.
Genre, si je prends un litre de coca, je ne peux pas rentrer non plus en tribune
ouest. Tu ne peux pas rentrer en tribune ouest avec ton gobelet. C'est à l'anglaise. Il faut boire dans la coursive. Puisqu'il y a eu trop de jets de gobelets, plus ou moins pleins, qui tombent effectivement généralement au bas de la tribune ouest et qui blessent littéralement des gens. La Croix-Rouge récupère des gens blessés à tous les matchs ou presque parce qu'ils prennent des gobelets.
Il y a une question Croix-Rouge aussi.
On peut
aussi dire que effectivement, Radio Chou, ne jetez pas vos gobelets pleins, buvez-les.
Ou offrez-les nous.
Voilà. Ou alors à la limite, ce que conseillaient certains comme Kenny, genre douchez-vous vous-même avec votre bière sur un but pour ne pas faire chier vos voisins. Quoi.
Et n'oubliez pas
de donner votre gobelet aux associations de supporters. Ça, c'est très important.
Alors, peut-être que ça a une relation de cause à effet, mais la première récolte des gobelets pour les associations de supporters pour ce premier match a été bien meilleure que celle des saisons dernières. Est-ce que c'est dû à l'interdiction de les ramener en tribune? Je ne sais pas.
Ou l'interdiction de les jeter.
L'interdiction de les jeter. En tout cas, pour ceux qui avaient la chance d'avoir une bière, ils n'avaient pas le droit de la monter dans le monde. Avoir une chance d'avoir une bière, c'est-à-dire c'est vaincre les files d'attente qui a priori étaient compliquées.
Moi, franchement, j'ai pas le souvenir d'avoir vu. Après, je suis peut-être arrivé au mauvais horaire, mais j'ai pas de souvenir d'avoir eu des files d'attente aussi catastrophiques à la même. Il y a des buvettes qui ont été supprimées, qui ont été remplacées par des espaces VIP, parce qu'il y a des cloisons qui ont été faites dans le cadre des travaux du stade. Et puis, alors il y a, oui, on l'a dit, un nouveau prestataire. Alors, de nouveaux étudiants, est-ce qu'on a le droit à le buvette gate? Évidemment qu'on y a le droit.
Tous les
ans. Est-ce que ça va râler? Évidemment que ça va râler. Mais là, ouais, c'était... Alors après, peut-être qu'aussi, on n'a pas forcément l'habitude de jouer à 21h le dimanche. Et est-ce qu'on va souvent jouer à 21h le dimanche? Ben, on espère, mais...
Donc les gens s'inquiètent, donc on leur change leur prestataire de buvette de bière, donc maintenant c'est Cronenbourg qui reprend ça avec des étudiants, ou en tout cas une autre organisation des buvettes. Donc premier match, bah évidemment c'est extrêmement compliqué, on peut espérer que ça s'arrange dans les matchs à venir, ouais. Mais d'autres tweetos de la tweetosphère racine s'inquiètent sur d'autres choses. Par exemple, la truite, le très célèbre la truite, un pseudonyme absolument fantastique, qui nous pose la question, quid de l'avenir des Spätzle et de tous les prestataires historiques? Donc là les gens remettent tout en cause. Pour l'instant, à notre connaissance, il n'y a pas remise en cause des autres prestataires, les Spätzle, les fameux cuches.
Je crois qu'il parle de la bière aussi.
Oui, il parle de la bière, il dit...
Pourquoi la bière pour
mais la bière n'est pas dans le stade de la Méno.
Oui, mais... Tant qu'il n'y a pas de fan zone, il peut faire ce qu'il veut. Le jour où il y aura une fan zone, il y aura peut-être remise en cause de la bière. Jean-Marco, il va lui dire, attends, tu vas pas vendre des bières 1€ moins cher devant ma fan zone
Enfin, 1€ ou 5, quoi.
Voilà. Mais en tout cas, à notre connaissance, il n'y a pas remise en cause des autres, et c'était le cas sur le premier match, les prestataires nourriture habituels étaient les mêmes.
Oui.
Étaient les mêmes. Il n'y a que un ralentissement du service de la bière et la marque de bière qui a changé.
Oui.
et le dispositif qui sert à tirer les bières. Je pense que ceci explique cela, et aussi le fait que maintenant ils ont des smartphones où ils renseignent article après article toutes les commandes, et ça prend un temps fou. Et je pense que il y a aussi une prépa et du rodage
à faire. Ouais, c'est le big data, ça, c'est pour avoir des statistiques sur
Après, de toute façon, il y a bien un moment où il va falloir qu'ils mettent en place comme dans tous les stades, une espèce de carte où tu peux payer avec ta carte d'abonnement, où tu seras pas obligé de sortir ta carte, faire un code, tu biperas comme tous les stades allemands là.
C'est je pense qu'on va y arriver, effectivement.
Il y a des stades où il y a le service en tribune aussi.
Est-ce qu'il y a un buvette manager à la méno?
Mais il y a forcément des gens, ouais, qui gèrent la partie.
On va lui toucher deux mots. Le Croix-Rouge Gate, il me semble que c'était Captain Fleur. J'ai cru voir un message, oui, sur la Croix-Rouge.
Captain Fleur, que pensez-vous de la perte du marché pour la Croix-Rouge, de la prestation de premier secours au public les jours de match? Non, j'avoue que je ne savais pas du tout.
Ah, mais non, en fait, il veut dire que si les gens ne prennent plus de gobelets dans la gueule, la Croix-Rouge a moins de taf. Je crois que c'est ça. Si j'analyse son message.
D'ailleurs, je pense que c'est pas la Croix-Rouge officiellement, je pense que c'est la sécurité civile qui
est. Attention, parce que c'est la guerre, ils s'aiment pas. Moi, on m'a dit ça. Apparemment, c'est genre.
Je crois avoir vu dans les matchs, en tout cas dans les coursives, le orange et bleu de la sécurité civile.
S'ils se battent et qu'il y a des blessés, qui c'est qui les s'en occupe?
Le SAMU.
Ah. Voilà.
C'est le troisième larron.
D'accord.
Je ne sais plus, les Capulets.
Effectivement.
Les Capucés.
Ouais, la même chose que Roméo Juliette.
Ouais, c'est ça. Vous voulez dire, putain, je voulais étaler un petit peu de confiture là. Et
ben voilà.
On n'a que du Nutella. Bon, bah.
Voilà. Mais en tout cas, au stade de la Méno, effectivement, si ils peuvent ne plus gérer les gens qui se prennent des gobelets sur la gueule et qui ouvrent des tronches.
Montaigu et Capulet.
Voilà.
Tout le monde s'en fout, mais ça s'est dit.
Ça s'est dit. Et donc, du coup, je pense qu'ils sont contents, du coup, les secouristes, de plus s'occuper de ces gens-là.
Ouais, ils aiment
et
pas trop recouler les arcades.
Et surtout, le club en a marre de régler le lundi matin, recevoir une dizaine de mails de plaintes en disant que ça va pas du tout. C'est parce que les incidents et les incivismes se répètent.
Voilà, donc.
Buvez des bières, mais buvez-les dans votre gobelet, jetez pas votre gobelet, et tout le monde sera content.
À pas communiquer sur la ligne durée pour cette interdiction.
Il y avait déjà une interdiction temporaire l'année dernière.
Là, c'est jusqu'à nouvel ordre.
Et maintenant, moi, je vois pas le club cette année se faire trop chier à refaire. Il veut dire que la tribune va changer de configuration une fois que le stade sera refait. Peut-être sera plus difficile de jeter des bières, je sais pas.
Je vois pas. Enfin, c'est toujours facile de jeter des bières.
C'est plus facile de la boire, il me semble.
Mais moi aussi. Je suis assez d'accord.
En tout cas, sur ce premier match-là, on en ressort. On peut parler.
Ouais, on peut faire le bilan du match.
Il y a un petit truc que j'ai envie de parler, c'est la chanson de Motiba, mais c'est sa petite. Quand il se fait rappeler la petite vidéo qu'a sorti le club, qui est absolument super, où Sels lui dit « Ah, ils sont en train de chanter pour toi », il revient, parce qu'il avait évidemment pas compris les paroles, comme à peu près la moitié de la tribune ouest, au passage.
D'où le sous-titrage du club, et ça c'est beau.
Et du coup, ça va faire... les gens maintenant connaissent les paroles, et donc s'il arrive à remarquer un but à la méno, ça va être génial. Et la joie de vivre du mec. C'était la vidéo, elle est juste... c'est feel good, quoi. C'est vraiment le mec, et tu vois qu'il est là, il a kiffé. Alors, il a fait un match, il a couru beaucoup dans le vide, il a été là au bon endroit au bon moment pour pousser la balle dedans. Il a pas eu deux autres occasions, il a frappé une fois au but et si, à un moment donné, il a contrôlé, il a frappé du gauche. Pardon. Je me vois très bien devant la tribune ouest, il a fait un beau contrôle en pleine course, frappe du gauche qui est passé au-dessus du but,
mais joli.
Ça fait plaisir, il joue cette année sans strap au genou, alors que la dernière malgré qu'il avait soi-disant plus mal, il jouait quand même un peu comme Jiku qui avait toujours sa protection sur l'avant-bras, tu vois, de manière un peu psychologique. Et là, il l'a dit en interview après match, il ne ressent plus de douleur à son genou. Kittel a eu un mot assez sympa, puisque la chanson, il a dit « Est-ce qu'on bientôt on chantera « Est-ce qu'il a disparu ?» pour Jean-Pierre Madère. Je ne sais pas si vous l'avez lu, le bon mot de Kittel. Et j'espère que non, et j'espère lui donner tort à Kittel en disant que...
Dans une France Falcon.
Exactement.
Évidemment.
Avec le choubiste Falcon qui appréciera. Mais j'aimerais bien que ça dure un peu et que ce... Il a toujours fait preuve d'un super état d'esprit. Il a marqué un but. Potentiellement, il sera pas titulaire à chaque fois, mais je pense que c'est sur le joueur qu'on peut compter, en tout cas sur lui. Quoi.
Le nouveau Dimitri Lénard.
En chouchou, il a toujours été un peu chouchou de la Méno.
Ouais, mais il a
un vrai capital. Un vrai capital chouchou.
Je vois pas comment tu peux ne pas aimer Motiba. Tu peux maximum feindre l'indifférence, mais le mec, il sourit tout le temps, et qu'il soit bon ou mauvais, il s'est jamais plaint. Ses interviews, c'est toujours un espèce de, c'est un livre de positivisme, là.
Ouais. Bon, après, il y a la dimension sportive.
Moi, bah, il est capable de faire des beaux trucs hein, au début quand il est arrivé, c'était, ouais, c'était vraiment pas mal. Hein.
Globalement, il y a quatre vrais avant-centres dans l'effectif. Il y a lui, Gamero qui peut vraiment jouer, il y a Emenga et il y a Saï qui est pour l'instant blessé.
Donc, c'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup et à la fois si tu joues en 4-3-3 et t'as qu'un seul avant-centre, ça fait beaucoup. Il y aura une hiérarchie quoi, tu vois. Mais après, il y a toujours des blessures, des suspensions, donc il aura forcément sa chance.
Oui, il aura sa carte à jouer.
Il est en fin de contrat à la fin de la saison. Comme Jean-Jean. On va en parler. Donc bilan du match plutôt positif.
Bon,
on est content parce qu'on a gagné. Hein,
ah bah il y avait le smile dans les tribunes.
On est content pour le score.
Voilà. À confirmer à Monaco, on en parle tout de suite après le mercato. Top jingle.
Mercato.
Le mercato qui a. Alors, rappelons-nous, tous les ans, les gens, c'est quand le transfert, qui c'est qu'on achète.
Rappelons qu'au moment où on enregistre cette émission, le mercato n'est pas terminé. Il sera terminé
le 31 ans.
31 minuit, je crois, une connerie du genre.
Oui, si, ouais, il y a un 31 août, ouais.
Donc, voilà. Il reste encore beaucoup de jours pour que.
Ben, deux semaines, exactement.
Ouais, voilà. Est-ce qu'on va parler d'abord peut-être des départs?
Exactement! Les départs!
Alors, je fais un salut amical à Colin Dagba qui est retourné dans le loft du PSG.
Alors, est-ce qu'il joue au PSG? Non, bien sûr.
Non, il est dans le loft, il a croisé Kylian Mbappé pendant quelques jours, je pense que ça lui a fait du bien. Mm-hmm. Il essaie de trouver une porte de sortie au PSG, mais ça, a priori, c'est compliqué.
Metz cherche un joueur. Ouais.
Après, en joueur cadre qui est parti, on a notre ex-capitaine ou vice-capitaine, Alexandre Tchikou, qui finalement a trouvé une porte de sortie qui lui convient bien à Fenerbahçe en Turquie. Voilà. Visiblement, ça s'est fait sans trop de problèmes. On n'a pas le montant du contrat, je ne m'en rappelle plus.
On n'a pas
le contrat, puisque c'était fin de contrat, donc il n'y avait rien du tout.
Bah, et la prime de son frère.
Oui, il y a eu ce départ avorté.
Voilà. Il y a un an. Très tôt dans le mercato, nous a eu un autre départ. Marvin Elimbi, qui était tout le temps prêté, machin, il est revenu au club pour repartir directement à União Torrense en Portugal. Et bref, c'est le joueur qui a jamais finalement percé. Il était à un moment donné en Norvège, en championnat norvégien. Il est revenu.
C'était lui.
Ouais. Et du coup, là, il a été transféré définitivement au Portugal pour quelques centaines de milliers d'euros, de ce que j'ai en souvenir.
Il y a pas de petit, il y avait à l'époque, il n'y avait pas de petit profit.
Voilà. Sinon, en fin de contrat, on avait notre premier japonais, Eiji Kawashima, qui a priori s'entraîne toujours dans la région, mais qui cherche un club pro encore pour rebondir.
Il est peut-être temps d'arrêter.
À 40 ans. Et au pire, il a dit qu'il retournerait au Japon.
Je proposerais bien les vétérans de mon club, mais je crois qu'il est trop vieux donc.
Ah. 40 ans, t'es super vétéran.
Non, c'est 45.
C'est 45.
Okay. Ah ben voilà.
Et ça va. On a un deuxième japonais qui a quitté le club au retour de prêt, c'est Yuto Suzuki, qui est donc retourné dans son club japonais, mais pas pour longtemps.
Il est en Scandinavie là, mais j'ai plus.
Il est au Danemark, ouais. Ai-je lu. Il a été reprêté dans un club danois, donc de deuxième tentative à l'étranger.
On retiendra son magnifique but contre Ajaccio.
Il y a pas, juste si on peut s'arrêter une seconde sur le match, il y a pas un petit goût de. On aurait aimé en voir plus quand même.
Surtout si on en recherche des liés vifs, ouais. Il aurait pu faire le. Parce que on en parlera un petit peu après, mais je trouve que sur certains postes, on est particulièrement bien équipé, on en a doublé un paquet. Mais si jamais notre ami Patoche, il veut jouer en 4-3-3 avec des ailiers, on a un Brésilien qui vient d'arriver, on a un Bordelais qui peut jouer à ce poste-là et tout, mais on en a que deux. Mmh. On n'a aucun backup. Pour jouer en 5-3-2 avec double attaquant, on a nos quatre attaquants on a tout est doublé. Au milieu de terrain, ça va à peu près, même si c'est pas toujours le même poste, mais ça va. Tu veux jouer en 4-3-3 et que tu veux doubler à peu près tous les postes pour être Pelardos, les ailiers, ils nous en manquent.
Alors,
Yuta Suzuki, ça aurait pu être, parce que c'était pas non plus ultra cher, ça aurait pu être une solution si le coach a dit coucou, moi, je veux jouer en 4-3-3, il faut recruter par rapport à ça.
Il y avait une option d'achat.
Il y avait une option d'achat.
Qui devait pas être très cher.
Non.
Qui devait pas être, ça devait être à mon avis quelques. Si c'était 1 million, c'était le bouillon.
Voilà, je pense pas. Je pense même pas, ouais. Quelques centaines de milliers d'euros.
Bon, pour revenir à ce que tu disais, il y aura potentiellement encore des arrivées de joueurs offensifs, donc ce sera pas.
Attention, on n'a pas fini les départs.
Ouais.
Ah oui, non.
J'anticipe sur un départ que tu vas donner tout à l'heure qui sera potentiellement remplacé par un
joueur. Alors, en joueur de fin de contrat qui a mis fin à sa carrière, on a Maxime Lemarchand.
Ah oui, il a mission chez les jeunes, non? Il n'est pas les U19?
En fait, a priori, de ce que j'ai compris, le club lui a dit « Essaye un petit peu de traîner avec les jeunes, voir si le métier d'entraîneur pourrait être... » En fait, il lui donne le pied à l'étrier parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire. Ah, est-ce qu'il veut être entraîneur? Est-ce qu'il veut être
marqueur? Je pense qu'il n'avait pas prévu non plus d'arrêter sa carrière.
Il veut lui proposer le stage Dimitri Liénard en mettant les 3 semaines à la compta et puis...
Voilà, donc en fait là, il essaye pendant quelques temps de voir un peu ce que ça peut être le métier d'entraîneur. Voir si ça peut lui convenir. Je pense que c'est un. Enfin, c'est. Voilà, c'est du bénévolat.
Hein. Ça a l'air d'être. Bah. Faut pas déconner. Voilà.
Après, en joueur de fin de contrat, on a quelqu'un d'un peu connu qui était le capitaine du club, Dimitri Liénard, qui a réussi à se recaser au Sporting Club de Bastia.
Parce que quelqu'un a regardé un petit peu le premier match de Bastia.
Bah, j'ai vu qu'il a mis une superbe lucarne.
But,
ouais. Un magnifique but en pleine lucarne.
Je regarde.
Qui est une pied gauche exceptionnelle, vraiment une super frappe.
Avec une célébration. Tout en retenue et à la Liénard, quoi.
Ouais, il est allé chercher le maillot de quelqu'un qui est blessé, ou je sais pas quoi. Et il est allé devant le COP avec le maillot du mec blessé. Enfin, il s'est fait aimer directement par les supporters de Bastia. A priori, il est heureux comme tout. Sa femme va arriver en septembre avec les gosses, va s'installer sur l'île.
Ouais, il va être bien.
Il va être pas trop mal. Il a signé 2 ans plus une année en option.
Il y a une symbolique dans le fait qu'il parte cette année, je trouve.
C'est vrai. Avant l'heure, c'était un coup de semonce, une sirène d'alerte. Mais c'est bien. Bastia, moi, je crois que ça lui allait bien.
Oui. Bon, globalement, tous d'accord là-dessus.
Ouais, ça lui va bien. Et je pense qu'il y a pas mal de Strasbourgeois qui vont regarder un peu la saison de Bastia avec curiosité, voir ce que ça va donner, à Dimitri Liénard là-bas.
J'ai regardé 15 minutes de leur premier match, mais j'ai pas eu le temps de finir de lire tous les sponsors.
Oui, ils ont énormément. Ils en ont au moins 7 ou 8 en frontal du maillot. Enfin, c'est vraiment terrible. Après, Keller a toujours dit, hein, il peut partir 2-3 ans à truc, et dans 3 ans, il y a toujours une place qui l'attend en Racing. Donc,
peut-être président.
Ouais, peut-être.
Dernier départ. Enfin, après, Morgan Sanson, peut-être que c'est ça, Alex, sur lequel tu voulais...
Non, je voulais parler d'Abib Diallo, mais...
D'accord, mais après, alors.
Alors, Morgan Sanson, il y a eu Fazer Tom qui a un petit peu une joute verbale avec un journaliste de l'équipe par rapport aux conditions du départ de Sanson.
Ouais.
Sanson qui a plus ou moins dit que, genre, Strasbourg n'avait jamais vraiment réussi le retour. Ils ont fait semblant.
Et a priori, ça serait en fait des deux côtés. Strasbourg a pas vraiment poussé. Sanson a jamais dit qu'il était super intéressé. Et finalement, ben
ouais, voilà.
Ben, Isabella.
Après, que ce soit, alors on peut faire un parallèle aussi avec Djikou ou même Sanson. C'est des joueurs où tu sentais que si le club faisait vraiment un effort en termes de salaire, il y avait possibilité peut-être de les conserver. Ça a pas été à mon avis la volonté du club. Ça rentre peut-être pas aussi dans le projet éthique sportive, dans le projet voilà, de donner autant de ressources sur ces joueurs-là. Maintenant, j'ai aussi beaucoup lu que le club n'a pas les moyens de s'aligner. Bon, je pense qu'il faut aussi ne pas raconter n'importe quoi. Tu mets pas 56 millions dans le budget de transfert, d'investissement, et sans pouvoir...
Mais il y a le salaire.
Il y a le salaire. Et en fait, effectivement, c'est pas les mêmes budgets, et c'est pas les mêmes choses. Et je pense que Marc Keller, il est un petit peu comme dans certaines entreprises, t'as la pyramide des âges, et ça, on en reparlera un petit peu après. Il est surtout sa grille de salaire. Il a envie de se tenir. Il a vraiment peur. Il sait que ça fait exploser un vestiaire quand t'as des mecs à 10 000 balles et des mecs à 500 000 balles, quoi. Pour faire fondamentalement, pourquoi moi je ferais la passe au mec à 500 000 balles si lui me la fait pas, et inversement. Et donc du coup, un mec comme Sanson, ça devait à mon avis déséquilibrer en fait la grille de salaire de Strasbourg. Et il avait pas envie d'aller au-delà de ça. Il a envie de garder parce que ça peut être un débat, mais je pense que les nouveaux, aussi chers qu'ils ont coûté en transfert, en termes de salaire, ils viennent de championnats mineurs, Bundesliga autrichienne, championnat belge, Bordeaux, la Ligue 2 et tout.
Oui, oui. Bah,
à mon avis, ils sont évidemment pas à plaindre, mais ils sont, à mon avis, ils sont loin des top salaires de l'effectif actuel, que pouvait être un Gamero, que pouvait être un Djikou, ou même encore un Persic, hein, parce qu'il avait eu une très grosse revalorisation, ou un Cels, qui est un des plus gros salaires de l'effectif. Je pense qu'ils en sont loin, et du coup, pour pas déséquilibrer sa grille de salaire, Morgan Sanson, c'était un petit peu compliqué.
Alors, est-ce
ou
que
un Nabil Diallo.
Est-ce que c'est pas
Nabil Diallo qui...
Qui a
quitté le club.
Qui on va parler. Alors juste,
est-ce où il y a un peu plus de 2-3 heures, le Racing a officialisé le départ de Diallo, alors que ça avait été officialisé par le club achetant depuis, je sais pas, 2-3 jours au moins. Et enfin, Strasbourg a communiqué.
Mais ils attendaient le virement.
Peut-être
bien. Alors juste pour revenir sur Sanson et peut-être même Djikou, est-ce que c'est pas, par contre, un peu dommage que niveau, c'est des postes où on n'a pas vraiment fait le plein.
Bah, du coup,
du coup, on a pris Silla.
On a pris Silla, on a pris Sceaux en défense centrale aussi.
Qui Sceaux? Ah oui, le mec de Saint-Etienne.
Bah oui, c'est
des défenseurs centraux.
On a pris Baeza de Nancy, qui est aussi un défenseur central.
Oui. Mais est-ce que c'est des mecs qui vont jouer ça?
Alors, il y a 6 ou 8 défenseurs centraux. Alors
Oui, bon, j'en ai lu, il y en a au moins 6. Il y a 6 défenseurs centraux fastoche, donc il n'y a pas de problème de volume sur ces postes-là. Après, sur un Dimitri Liénard, qui est donc un milieu de terrain, pas forcément défensif, pas vraiment offensif, enfin relayeur, ou Sanson, c'est plus compliqué au milieu de terrain en termes d'arrivée, c'est vraiment beaucoup plus compliqué.
Du coup, il faut qu'on parle de Diallo et après on pourra parler d'arrivée. Habib Diallo, qui, donc, comme prévu, faisait partie des deux joueurs qui avaient un bon sortie. Habib Diallo et.
Bah, du coup.
C'est Djikou, c'est ça?
Mais c'est un bon sortie
Ouais, non, c'est pas Bellegarde qui a un bon sortie.
En tout cas, c'est pas Diarra.
Non, c'est pas Bellegarde. Bellegarde, il a pas un bon
sortie.
Donc du coup. Le seul qui est resté, c'était Diallo qui avait un bon sortie.
Donc Diallo qui avait un bon sortie, le club lui avait dit que s'il trouvait un deal qui l'intéressait, il avait la possibilité de partir après avoir rendu de fiers services à l'équipe.
Je résiste pas au plaisir de vous donner les âges des gens qui sont partis. Habib Diallo, 27 ans. Alexander Djikou, 28 ans. Kawashima, 40. Le Marchand, 33. Liénard, 35. Morgan Sanson, 28. Yuto Suzuki, 21. Donc on a une bonne partie de l'expérience de l'effectif, effectivement, qui est parti. Dans les départs, on peut encore, pour être exhaustif, on peut signaler qu'il y a quelques joueurs qui ont été prêtés, genre Lorenzo Dupuis à Épinal, Dany Jean qui a été prêté à Avranches, Nordin Kandil qui a été prêté récemment à Annecy, ouais. Robin Risser
qui a joué le premier
match. Robin Risser qui est prêté à Dijon en National et Jordan Robinon qui a été prêté à Cholet.
Donc ouais, dans une équipe
on a été
de
exhaustif.
Basket.
Évidemment. Une équipe a priori qui est extrêmement mal gérée, l'équipe de Cholet. Ah. Mais voilà. Dixit Romain Molina, je vous invite à aller voir la vidéo qu'il a fait sur Cholet.
Je l'aime. Donc Habib Diallo, c'est un peu la mauvaise surprise, même si on s'y attendait. C'est quand même le départ du meilleur buteur.
Pour moi, c'est pas une surprise. C'est annoncé par le président. Il a sorti.
Mais
il vaut quelque chose. On sait qu'il vaut entre 15 et 20 millions sur le marché parce que il aurait eu 23 ans, il aurait valu 30. On le sait aussi.
Ça, c'est clair, oui.
Et voilà. Et donc, il a un bon de sortie. Après, moi, je suis pas surpris qu'il parte. Toujours un peu déçu quand même qu'il parte s'enterrer dans le deuxième club de la capitale de l'Arabie Saoudite. Ouais, voilà.
Bon, alors attention, les choses évoluent très vite de ce côté-là.
Il va peut-être jouer la Ligue des Champions.
De la planète foot et on ne sait pas quel niveau de compétitivité auront ces clubs dans 2 ou 3 ans.
Ouais, mais dans 3 ans, ça sera la fin de son contrat.
Ça, c'est pas faux. Donc, voilà.
Mais
pas
surpris, on le savait, Marc Keller l'a clamé au effort, on parle d'un Habib Diallo qui était à 20 buts la saison dernière. Déjà, il nous fallait les autres saisons, il nous fallait vendre pour équilibrer le budget. Là, cette année, on n'a plus besoin de vendre pour équilibrer le budget, mais par contre, on a un joueur qui est bankable, on lui a promis qu'on le laisserait partir. Marc Keller, quoi qu'on en dise, c'est un homme de parole, il lui avait promis que s'il avait une offre à la hauteur de ce qu'il voulait. Visiblement, pendant l'année dernière, il a eu 12 millions de la Salernitana, il a dit non. Il a eu là 15 millions cet été, en juillet, de West Ham, il a dit non aussi. Autrement dit, là, a priori, il a eu 17 hors bonus et 20 avec bonus. Je te prie de croire qu'à mon avis, les bonus sont facilement atteignables. Connaissant Marc Keller, ça devait être, à mon avis, un seul nombre de matchs joués, un nombre de buts marqués assez fastoche. Par contre, à noter que parmi ces, même si on reçoit les 20 millions, il y a une partie qui va être reversée.
Au FC Metz.
Puisqu'ils avaient un pourcentage à la revente.
Toujours du bien. Et est-ce que, rebondissement, est-ce que Marc Keller est un homme de parole? Il a dit oui à Habib Diallo, il a dit non à Habib Diarra. Est-ce que ça veut dire qu'Habib Diarra ne partira pas?
Moi, je pense que, sauf offre stratosphérique, et quand je dis stratosphérique, il faut qu'on soit à 30-40 millions, je pense qu'il partira pas.
Moi, c'est Radio Ftoub, on est là pour prendre des risques, pour avoir des avis tranchés, hein, n'est-ce pas, Guillaume?
Voilà,
moi, je dis qu'il va partir. Voilà. On, on leur a dit ici en premier.
Mais on aura dit les deux. Donc on a forcément raison.
On a forcément raison. Ouais, je pense qu'il partira pas parce que ça serait un mauvais signal qu'enverrait Keller par rapport à ses jeunes joueurs et par rapport au reste du marché de dire au début de mercato ce mec-là il partira pas pendant tout le mercato et finalement partir à la fin, à quelques jours de la fin. Je pense que c'est juste une question de com et ça lui serait préjudiciable pour l'avenir. Le gamin va faire la gueule s'il veut vraiment partir, parce que bien malin en lisant la presse que tu saches réellement ce qui lui passe entre les deux oreilles à ce gamin. Est-ce qu'il veut vraiment partir à Lens, jouer la Ligue des Champions ou partir ailleurs, jouer la Coupe d'Europe ou pas, ou bien c'est des histoires d'agents qui font monter la mayonnaise, j'en sais rien. Toujours est-il que si tant est qu'il a vraiment envie de partir, ça va lui faire mal un temps et après il sera bien obligé de jouer. Il sait qu'il va devoir, il a 20 ans, il est obligé de jouer, il est obligé d'enquiller du temps de jeu. C'est pas comme un joueur comme un Lienard qui avait largement les 30 ans dépassés où c'était pas pareil. Là, lui, il a besoin de jouer au risque de s'enterrer et d'être oublié.
Mais il faut qu'il joue, quoi qu'il arrive.
Donc je pense que ça passera.
Voilà. Comme disaient nos amis du Nord-Pas-de-Calais, au début elle est froide, mais après elle est bonne.
C'est ça.
On a fait un petit peu le tour des départs. Et il y a le faux départ, la vraie arrivée. Gamero, stop ou encore ? Gamero est parti, il est revenu. Ça a été annoncé à grand renfort de vidéos marketing TikTok, je sais pas quoi trop, machin, j'ai pas regardé, mais apparemment c'est vachement bien.
Mieux que celle de Wolfsburg.
Bah, Wolfsburg, c'est un troll aussi de d'autres
choses. Oui. Non,
Mais ouais, Gamero.
Qu'est-ce qu'on en dit
à moi, personnellement, je pense que c'est une bonne chose. Il a, malgré tout, c'est la recrue d'expérience, la seule qu'on a refait cette année. Il est important dans l'effectif. Qui joue pas, il va être au contact des jeunes, il va leur apprendre un peu les ficelles du métier. Et c'est quand même un mec, quoi qu'on en dise, il a marqué 10 buts la saison dernière, il en avait marqué combien avant, 9 ou
il a marqué en plus 10 buts à un moment où on était vraiment dans la merde.
Et c'est le genre de mec qui est encore à 10 buts par match. Là, s'il en remet 10 cette année, il va doubler je sais plus qui au classement des meilleurs buteurs du Racing.
Il a 97 buts, je crois.
Ouais, il peut atteindre les 100 aussi, là. Il y a eu une petite passe d'armes sur Twitter avec Djibril Cissé, je sais pas si t'as vu.
Ouais.
Que Cissé a terminé à 99, il avait les nerfs, il voulait limite reprendre une licence pour un match, pour essayer d'en claquer un. Enfin, ça l'obsède un peu, et il a souhaité à Gamero de facilement franchir la barre des 100. C'est tout le bien que je te souhaite. Enfin, bref. Je pense que moi, c'est une bonne chose.
Moi aussi, et sur Gamero, quand on analyse le truc, on est toujours en train de prendre l'âge comme quelque chose d'une valeur un peu fixe comme ça. Et en fait, ça dépend vraiment des joueurs. Et Gamero, on l'a encore vu là sur son entrée, il a encore des capacités physiques en termes de vitesse qui sont encore très impressionnantes pour son âge. Et tous les joueurs vieillissent pas de la même manière. Lui, je pense qu'il a fait ce qu'il faut à un moment donné. Et moi, quand je le vois sur le terrain, si tu oublies qu'il a l'âge qu'il a, moi j'ai pas de mal à croire que ce mec a 31 ans quand je le vois jouer, quoi.
Ouais.
C'est mon opinion, mais pas. En tout cas, oui pour Kevin. Oui, Kevin.
Oui pour Kevin, et aussi le symbole, le pont entre peut-être l'ancien et le nouveau Racing, mais c'est quand même un symbole fort du Racing qui reste. Maintenant, je pense qu'on va peut-être pas faire dans l'exhaustivité. Les arrivées, mais on peut lister. Non,
on peut faire déjà très vite.
Je pense que Roulian, tu as cherché dans les DNA toutes les arrivées.
Bien sûr. Donc, on a eu déjà pour faire simple des retours de prêt. Donc, on a Maxime Bastien qui est revenu d'Annecy, mais qui a priori peut-être sera reprêté avant la fin du mercato. Ala Bellarouche qui est revenu de Saint-Brieuc en retour de prêt. On a Mehdi Chahiri qui est de retour du Paris FC et qui a priori est aussi en instance d'être téléporté. On a Carole Fila qui est revenu de Zulte Waregem.
Et pareil,
qui a priori ça ferait trois arrière droits, ça commence et il a pas du tout convaincu a priori notre ami.
Je pense qu'on peut dire que Carole Fila malheureusement est un flop.
Voilà. Je pense qu'on a le retour de prêt de Moïse Saïd Dion aussi qui va bien. On a Marvin Senaya qui est revenu de Rodez en retour de prêt aussi. Et là on est pas mal.
Prêté à Bordeaux peut-être. Non, je déconne.
Non. Par contre, on va peut-être pas parler des mecs qui vont signer pour l'équipe 2, du genre David Kaiki, Patrick Oudou.
Par contre, sur ces joueurs,
il y en a eu 5.
Un peu plus mineurs. Enfin, défense. Mais en plus, il y a Saïd dans le lot qui va peut-être un rôle cette année. Mais donc, il y a Alain Bélarouche. Donc, lui, là, c'était notre deuxième gardien, hein,
Il est officiellement intronisé deuxième gardien.
Parce que moi, je suis tout à fait franc. J'ai pas vraiment suivi ce qu'il a fait. Je suis pas du tout.
Il jouait où, à Bélarouche, hein?
Il était à Saint-Brieuc, la dernière.
Donc, a priori, c'est lui qui sera le gardien numéro 2 cette année.
Voilà. Il a été champion d'Afrique U23 cet été avec le Maroc.
D'accord.
Et de la vue unanime des gens, c'est un gardien qui, moi je l'ai vu un petit peu à l'entraînement, à l'échauffement et tout, il est brillant. Par contre, c'est un mec qui est ultra nerveux et qui peut péter des câbles. Donc c'est peut-être un Anthony Lopez bis. Il faut juste qu'il apprenne, il est très jeune, hein, aussi, il a 21 ans. Il faut qu'il apprenne à maîtriser ses nerfs. Mais sur le gardien de but, dans le poste en tant que tel,
c'est costaud. C'est
un bon jeu. Moi, ça me paraît bien d'avoir un gardien titulaire expérimenté, vraiment un vrai 1 et un vrai 2, qui est le gamin qui doit apprendre. Avant l'année, on avait Romain Risser qui est encore plus jeune.
Qui apparemment a fait de bons débuts avec Dijon.
Ouais, bah, il n'y a pas de doute à avoir par rapport à son talent. Il a 18 ans et a priori, le club veut en faire
le numéro 1,
un jour, possiblement le futur numéro 1, donc il le prête. Sachant qu'ils ont refait venir le Strasbourg, donc il y a un troisième gardien qui est le gardien d'Haïti, que j'ai mangé son nom.
Je
l'ai oublié.
C'est Pierre, non ?
Si, ouais. C'est ça, Alexandre Pierre. Et il y a un quatrième gardien qui vient aussi de l'Académie Mohamed VI qui a été engagé cet été. Donc on a quatre gardiens dans le truc et qui peuvent jouer, donc dont un titulaire et trois très jeunes, mais qui ont tous un certain niveau. Ils jouent, ouais. Jean-Alexandre Pierre, il joue avec Haïti, il est déjà un peu international. Alors c'est des compètes, genre on joue la Gold Cup ou des machins comme ça. Mais
je peux s'entendre quand même à ce que celle joue même les coupes, quoi.
Moi je suis pas sûr, je verrais très bien qu'il fasse jouer Bélarouche si ça me choquerait pas.
En Coupe de la Ligue, sûrement.
En Coupe Crédit Mutuel. En Coupe Vivalis. À ceux qui connaissent la Coupe Vivalis, alors là.
Donc voilà, ça c'était pour le côté exhaustif des retours de prêt. Après, si on le fait dans l'ordre d'arrivée, on a signé très tôt Steven Bazeya. Et là, lui, c'est le joueur qu'on sait pas trop dire. Il est pour la 1, pour la 2.
Bon,
il est
de Nancy, hein, c'est ça.
Il vient de Nancy, de la réserve de Nancy, 18 ans.
Vu le poste, il n'y a plus de doute, je pense que c'est pour le but.
Je pense aussi. En plus, il a été blessé contre le match contre le Sturmgraf. Donc voilà. Après, très rapidement, la deuxième recrue de l'été, Abakar Sila. Record de transfert du club, 20 millions d'euros. Il vient du FC Bruges.
C'est très impressionné de son match.
Il a fait très très peu de matchs au FC Bruges. Il n'a même pas une saison complète.
C'est ça.
Mais gros potentiel.
Potentiel énorme. Visiblement, de ce qu'on a vu sur un match, il a vraiment une belle technique pour rentrer sur le central. Il n'a pas l'air emmerdé avec le ballon. Par contre, il prend des risques, mais quasiment inconsidérés.
Joseph Ndou, peut-être le retour ?
Vu son poste, et du coup, comme il prend des risques, il est mis sous pression, et du coup, il fait des fois des relances qui sont un peu à l'emporte-pièce, quoi. Donc, j'ai l'impression qu'avec lui, pour l'instant, c'est tout ou rien. Espérons que ce soit tout.
Il fait un très bon match contre le Verder aussi. Je parle de ce match-là parce que c'est vraiment juste avant la reprise. Et bon, il marque avec un peu de réussite, mais en dehors de ça, il fait un très très bon match. Pour moi, c'est le joueur qui a le plus de talent. Alors en même temps, je dirais c'est le plus cher, hein, Mercato, mais sur toutes mes recrues, c'est celui qui me hype le plus. Voilà.
Donc, wait and see, comme
il ouais, donc, non, mais relativement tôt dans l'intersaison, il a pu participer au stage en Autriche, donc ça c'est pas mal. Il a fait toute la prep avec le club, il a pu s'intégrer avec les Ivoiriens ou les Franco-Ivoiriens de l'effectif, puisqu'il est Ivoirien.
Aoulou,
Saïd aussi, il y en a quelques-uns comme ça des Ivoiriens dans l'effectif, donc il n'y a pas de souci. Il a été suivi relativement près de Emmanuel Emega, qui est venu donc du Sturmgraf pour 12 millions.
Qui était au moment du stage en Autriche, petite vidéo un petit peu drôle.
C'est ça.
Ah oui.
Donc
Guy qui prend un rôle dans la communication du club, c'était assez inattendu.
C'est ça.
Ouais, tout le monde, chaque employé du club a son rôle dans la communication et ses mimiques, ses mêmes hein, maintenant.
Alors on a pas parlé parce que c'était pas cet été, mais on a eu Jesse Demingue qui est venu, c'est le premier de cordée. C'était l'hiver dernier où il a été blacklisté du coup par Caen suite à son transfert à Strasbourg gratuit hein, pour le coup. Et
Bon vieux transfert à l'ancienne Racing.
À la Thomasson qui vient aussi gratuit.
Oui, ou à la Thomas Delaine.
Un peu dans les deux postes.
Thomas Delaine, c'est vraiment pareil, c'était signé l'hiver alors que Thomasson c'était signé cash fin mai. Après, il y a eu un moment de calme où il s'est absolument rien passé, et après ça s'est enflammé en quelques jours avec la venue de l'ange Gabriel, de prêter donc par Chelsea. Premier joueur prêté dans le cadre de des clubs frères, les Blue Cup Brothers.
Mais c'est un joueur que c'est nous qu'on le suivait.
C'est... Donc ça, voilà.
C'est nous qu'on le suivait, même si tout le monde le suit. Alors après, dans Football Manager, le mec, il a 20 sur 20 partout.
Il y a eu une interview intéressante quand même où il disait que effectivement on le suivait, qu'il était hors de portée, il n'était pas dans la BD. Il était dans la BD, la base de données des gens de Chelsea, sauf que les mecs de Chelsea qui s'occupaient du recrutement ont tous giclé suite à l'arrivée de Blueco. C'était les mecs encore de l'époque Abramovich qu'il avait dans la base de données. Et les nouveaux, il y a deux directeurs sportifs, on va dire, à Chelsea, sont arrivés.
Il y en a un qui est aveugle et l'autre il est sourd.
Et donc l'histoire est racontée comme ça, en tout cas, et que du coup, on en a reparlé. Les mecs, ils l'avaient le nom dans la BD, ça a matché. Les mecs l'avaient, Désiré et Keller ont dit ouais, ce mec-là. Et du coup, ils l'ont acheté pour 15 millions d'euros à Santos. Ils l'ont testé donc toute la tournée américaine, machin. Ils ont eu un doute à un moment donné de le faire venir ou pas. Et finalement, il n'avait pas sa place dans l'effectif actuel de Chelsea en Premier League. Et donc, du coup, il vient en prêt ici. Bon, il a 18 ans, mais il a déjà plus de 150 matchs en pro.
Putain. Ah ouais.
Ouais. À Santos, il a démarré à 16 ans et quelques. Ouais. Ouais.
Non, mais c'est pour ça. Moi, j'ai un peu de mal avec cette version-là. Moi, pour moi, n'importe quel club de Premier League, qui plus est Chelsea, connaît un mec qui connaît un moins de 20 ans de Santos, qui a 150 matchs à Santos. Enfin, faut... on parle du plus grand vivier peut-être de joueurs au monde, enfin en tout cas en Amérique du Sud.
Donc en tout cas il arrive, voilà. Et il nous est vendu comme un ailier ultra rapide avec un pied gauche dévastateur et qui passe son temps un peu à la Robben.
Qui joue plutôt à droite.
Il joue à droite, il rentre sur faux pied et il rentre et soit il fait une passe soit il frappe avec son pied gauche. Donc à voir. Il paraît qu'à l'entraînement il est arrivé. Il a mis quelques coachs un peu sur le cul sur certaines actions. Là, on n'a évidemment rien vu contre Bordeaux parce que l'entraînement et le match, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, voilà. Il a été prêté pour un an par Chelsea. Dans un an, il retourne au club frère.
J'avais une question sur lui, spécifiquement.
Mais par contre, la com du club, on a quand même tartiné des kilos de schmierwurst sur Angelo Gabriel.
Bah, notamment la petite vidéo de présentation avec sa maman, avec un petit gamin du centre de formation. Il y a un mec qui s'appelle Zinedine ou je sais pas quoi.
Zinedine.
C'est absolument fantastique. Voilà. Donc ils ont fait. Bon, la vidéo elle est plutôt bien faite. Hein. Tu as retrouvé la question?
Oui, question de Superdoux. Que pensez-vous de la hype sur Angelo alors qu'à peine 18 ans est prêté pour un an seulement, il ne sera qu'un joker occasionnel? Bon, là, il répond dans la question.
Je pense que moi, à partir du moment où il aura compris ce que c'est la Ligue 1, et que s'il est vraiment le talent qu'on s'attend à ce qu'il est, je pense qu'il va jouer, titulaire tous les matchs.
Moi, je pense que comme il est acheté par Chelsea, qui visiblement mise beaucoup dessus, je suis pas sûr que nos grands frères apprécient qu'il ne devienne qu'un joker occasionnel à Strasbourg.
Oui.
Voilà.
Et le but, c'est qu'il joue.
Voilà. Je pense que pour eux, le but, c'est qu'il joue, et que je pense que peut-être qu'ils auront aussi leur mot à dire. Bon,
et parce que surtout, le même jour ou presque, je crois que le même jour a été annoncé l'arrivée de deux joueurs de Bordeaux, le pack bordelais, l'UBB, hein, la tortue béglaise. Donc Dylan Bakwa et son petit frère, ou presque, Junior Manga. Donc un défenseur central, un ailier. Pareil, tous les deux, 20 ans. Là, je pense que pour le coup, l'ailier bordelais, lui, il aura peut-être un peu tête. Lui, il risque de faire banquette et de faire des rentrées de match, quoi. C'est peut-être moins un titulaire naturel comme pourrait être le Brésilien. En tout cas, les deux joueurs sont venus. Pour bon an, mal an, je sais plus, 19 millions d'euros, c'est ça ?
Est-ce qu'il fallait sauver...
On ne sait pas d'ailleurs qui a coûté combien.
Ouais, est-ce que ça vraiment... Ouais.
Est-ce qu'on n'a pas un peu sauvé...
On l'a vendu en pack.
Est-ce qu'on n'a pas un peu sauvé Bordeaux là-dessus ?
Non, sauvé non, mais en tout cas, notre ami Lopez, qui avait fait son crédit pour payer ses 40 millions d'euros là, pour passer à la DNCG cette année, les doigts dans le nez, hein. Il a eu aucun problème en faisant le crédit, mais il avait dit que c'était contre retour à bonne fortune. Il avait dit qu'il essaie de récupérer rapidement 20 millions. Bah, il y a un club de Strasbourg qui a donné 19 pour les deux. Je pense qu'il doit être pas mal. Là. Il a dû se rembourser la moitié des traites.
Il n'a plus parti en vacances.
Ouais, l'esprit quasiment léger. Donc évidemment, on leur a fait du bien, mais on leur a pris a priori les deux seules pépites de l'effectif de Bordeaux qui a très bien démarré son championnat.
Bah, il y a deux matchs.
Ouais, mais bon, ils ont démarré par une défaite 3-0 à Pau et ils ont fait une victoire 1-0 sur un pénalty de l'enfer.
Face au promu.
On va pas prendre les droits des Bordelais quand même.
Non, surtout pas. Donc en tout cas, le même jour, on a signé trois joueurs.
pour beaucoup de brousouf.
Pour finalement un gratos, mais l'autre beaucoup de brousouf. Et le lendemain, pour clôturer le mercato au moment où on parle, on a Seydou Sow. Alors ça, personne n'avait vu arriver quand même.
Il a déjà joué au Racing.
Ça, tout le monde l'a vu.
Comme c'était il y a longtemps, maintenant il a reculé un peu sur le terrain. Donc maintenant,
oui, c'est plus tout à fait le même. Mais ouais, là, de nouveau un défenseur central.
Provenance de Saint-Étienne.
C'était pas vraiment le poste où on pensait que. Et pourtant.
Ouais. Bon, je vais citer un Stubiste, Radio Stubiste de renommée, mais. Hathor disait, alors c'est son avis, mais il disait que le défenseur central de Ligue 1 avait une bonne cote sur le marché et que dans le cadre peut-être. Alors là, par contre, c'est moi qui analyse, qui surenchérit, mais qui extrapole exactement. Mais voilà, dans le cadre d'une politique sportive où tu cherches à faire du trading de joueurs, ben, tu peux avoir des choix qui sont pas forcément entièrement collés à la nécessité sportive de l'équipe première, mais qui peuvent aussi avoir.
Est-ce que c'est une opportunité financière, quoi? Genre Saint-Etienne n'a pas beaucoup d'argent, ils avaient un mec qui pouvait valoir du pognon à la revente, on le prend.
Ouais, et après, moi, je repensais à ce que disait... je vais revenir sur l'épisode maudit de Radio Stoop, mais ce que disait JP Darky quand il faisait un parallèle avec Big Pharma lors du dernier épisode. Mais en gros, l'idée, c'est que tu fais, si tu fais 10 paris et que t'en as 2 qui sont gagnants, bah t'as tout gagné. Donc c'est pour ça que là... On a fait multiplier des paris qui peuvent être intéressants, mettre 3-4 millions sur Sow, ben, ça marche, on a tout gagné.
On va dire que pour un joueur de 20 ans, 3-4 millions, c'est plus ce qu'on s'attendait à mettre sur un joueur de 20 ans qui était à Paris, comme pouvait être par exemple à l'époque Doucouré ou des choses comme ça. On pouvait les faire venir, on pouvait prendre un pari. Là, clairement, lui, vu ce qu'il y a en défense centrale actuellement entre... les Silla, les Niamsi, les Doucouré, les Perrin, peut-être même le Bordelais, tout ça, à mon avis, je pense que c'est devant lui. Et donc, il ne rentrera, je pense, il sera peut-être de temps en temps sur les feuilles de match, mais il ne rentrera, ou des choses comme ça, que via blessure ou suspension. Je le vois pas jouer cette année. En tout cas, la première année, un grand rôle. Genre de mec qui va sûrement un peu se perfectionner au contact du groupe et il sera peut-être amené au départ des uns et des autres à reprendre plus de responsabilités.
Ça va dépendre de sa courbe de progression, peut-être qu'il va exploser et que c'est lui qui...
Est-ce que dans ce cas-là, il ne nous manque pas un club petit frère?
On pourrait acheter un club.
Un club petit frère pour leur côté. Alors,
il y a Sochaux
en promo. Annecy, Sochaux. Ah, Sochaux en N1, c'est peut-être un peu trop bas pour nous, ça.
Non, mais il faudrait changer de pays pour être drôle.
Ah oui, la Suisse, Neuchâtel.
Avec Gilbert Gress à mon frère.
Ah ouais, ça c'est une super idée.
Ouais. Enfin, je pense qu'il faudrait mettre Gilbert Gress et Marc Keller autour d'une table et ça, c'est pas évident. On a fait un peu le tour du mercato.
Ah, là, même clairement, là, on a bien fait le tour.
On a un petit peu pris du temps, mais on va aller assez vite sur le futur, the future.
Tu voulais faire.
Oui, quelques questions à la volée, bien sûr.
Il y a beaucoup de questions sur le mercato. On peut s'en faire quelques-unes en rapport.
Ouais, bah, bien sûr, on a le temps. Hein. De toute façon, c'est pas comme si les gens avaient déjà arrêté d'écouter.
Donc
Pierre, si tu nous écoutes pas,
vous êtes vraiment des cons. Alors, question de Batavus. Vu l'âge des recrues, faut-il ajouter des logements étudiants dans le nouveau stade, un naming Proust, stade de la Monnaie, c'est bien ou pas bon, ça c'est.
C'est drôle.
C'est drôle, voilà. Faut-il rajeunir l'âge des chroniqueurs de Radio Stoub entre 19 et 21 ans comme l'effectif du Racing? Bon, là, tout en a.
C'est Batavus aussi?
Non, c'est Mediasoc.
Mediasoc.
Bon, t'en as viré pas mal. Moi, je vais pas me vanter, mais je suis quand même très jeune. Voilà.
Bah, nous aussi, hein. Voilà.
Qu'est-ce qu'on avait d'autre?
J'en ai quelques-unes, moi, sur Twitter.
Allez-y, hein.
Il y a Mister Foot de Foot. @ Mister Foot de Foot.
Je l'avais aussi, ça.
Y a-t-il assez de cadres? Pita, oulala, Angelo, à quel point Bellegarde est-il important et à quel point est-il sous-coté? Et alors, il pose plein de questions, parce qu'après, il y a vaut-il mieux gagner avec Angelo que perdre avec Yannick Roth?
Donc lui, en fait, il a posté un épisode de Radio Stoop.
Ouais, c'est ça. Mais globalement, ce qui pose la question, il y a une question qui est donc intérieure.
Question avec Yannick Roth, c'est toujours...
Non, mais à quel point Bellegarde est-il important? C'est peut-être la question qui mérite...
Parce qu'il a été... Est-ce qu'on n'a pas vu quasiment que Bellegarde au premier match?
Il a été décisif, c'était, je pense, avec Cels le meilleur joueur du match.
Je suis d'accord. Et s'il faut que je me flagelle, je dois reconnaître que je suis pas un fan forcément de Bellegarde.
J'ai toujours été fan de Jean-Jean, hein, bien sûr, de la première. Ouais. Non, pour moi, j'avais dit qu'effectivement, on pouvait lui donner un bon de sortie, car le mec, il avait jamais réussi à confirmer les éclairs qu'on avait pu voir à de nombreuses reprises.
Il a des scories, il a des déchets dans son jeu là à chaque fois. Et des fois, il peut perforer un truc et oublier la balle.
Il manque d'intelligence de jeu, mais en même temps, vu ses qualités autres, ses qualités physiques, ses qualités de perforation, etc. S'il avait, enfin, il serait pas au Racing quoi. Le mec,
il serait plus au Racing. Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire peut-être que Jean-Jean ne brille surtout par le fait qu'il y a personne à côté de lui aussi. C'est-à-dire qu'au milieu, il est un peu genre il est un peu seul en fait. Personne n'est venu. Ouais, est-ce que Dominguez va lui faire de l'ombre en venant de Ligue 2? Pas tout de suite. Je sens même qu'il soit très fort ou pas, il va falloir qu'il s'adapte. Il est pas.
Alors après, c'est vrai qu'on a pas parlé de ça, mais on a parlé du départ de Diallo. On a parlé effectivement du fait qu'on ait une pléthore de défenseurs centraux. Le mercato, on l'a dit, est pas fini. Il va y avoir, a priori, encore des recrues.
Plein, encore.
Potentiellement, si. Bon,
le Racing distille dans la presse une information complètement différente qui était de dire que le mercato est fini, sauf départ.
Je trouverais ça surprenant.
Évidemment qu'il prêche le faux, hein. À mon avis aussi, je pense qu'il pourrait, surtout au milieu de terrain, je pense que ça me paraît
Moi, je pense qu'il, si on voudrait vraiment compléter l'équipe, il manque un profil offensif et un profil de milieu de terrain, quoi.
Offensif, je sais pas, peut-être un ailier en doublon pour avoir un autre ailier, effectivement, mais il manque surtout, effectivement, un milieu de terrain, autre chose qu'un milieu de terrain défensif. Oui, parce que défensif, on a des Persic, des Aoulou, des Sissoko. On a vraiment purement défensif. On a des Bellegarde qui peuvent jouer sentinelle devant la défense. Ça fait vraiment beaucoup. Mm-hmm. Par contre, en milieu de terrain, à part Bellegarde qui peut jouer ce rôle-là ou Diarra qui a été bon là-dedans l'année dernière, c'est un petit peu compliqué, quoi. Donc en tout cas, Bellegarde important dans l'effectif actuel. Oui, si Bellegarde part avant la fin du mercato et qu'il n'est pas remplacé par un top joueur. Je pense que l'animation offensive risque de prendre
beaucoup. Là, je viens de faire un truc fort, c'est qu'on vient de répondre à une question avant que j'en prenne connaissance, avant que je la lise. Question de Roquette Syntaxe. Que pensez de la communication du club à propos de la nature de recrutement de la perte des cadres? À quoi s'attendre pour l'année? Avez-vous des tuyaux sur les intentions du club pour renforcer l'effectif avant la fin du mercato? On vient d'en parler.
Des tuyaux, non, si c'était que moi je lis la communication officielle. La communication officielle qui passe à travers les journalistes des DNA et tout ça, c'est de dire le mercato est terminé, sauf grosse occasion. On s'interdit rien, mais enfin globalement, ils sont pas en train de dire oui, on est encore à la recherche de deux joueurs. Est-ce que c'est pour calmer l'appétit vorace des agents
ouais, qui casent Strasbourg dans à peu près une heure sur deux.
Voilà.
Après, moi, je pense que, enfin, si l'effectif venait en rester là, j'avoue, un petit peu pessimiste. Vous l'aurez compris.
Pour monter très haut dans le classement, je suis pessimiste pour le maintien.
Je pense que là, comment?
Parce que ça, on peut se garder la question pour la fin, mais il y a notre meilleur auditeur qui nous a demandé un pronostic de classement du Racing en fin de saison.
Eh ben,
on pourra clôturer là-dessus.
On peut clôturer. On peut commencer par discuter des prochains matchs. Le prochain match, c'est Monaco.
Ouais. Belle équipe de Monaco qui a bien démarré avec
un Ben Yedder pas du tout inquiété par sa mise en examen pour viol.
Pas du tout, il a marqué un doublé la première journée de championnat.
Tranquillement,
c'est-à-dire qu'il se sent j'ai envie de dire le but du juste, tu vois, il sait qu'il est dans son bon droit.
Ouais, c'est un jour, quand les footballeurs sont accusés de viol, ils tireraient un penalty et s'ils marquent, ils sont innocentés comme à l'époque les combats du Moyen-Âge.
Voilà. Donc ouais, ça va être déjà un gros match. On a déjà eu Lyon, là on va avoir Monaco comme deux premiers matchs. C'est déjà deux futurs candidats à la Coupe d'Europe.
Celui qui suit est pas simple non plus, je crois. J'ai plus
Toulouse.
Le
cas. Toulouse.
Toulouse, là par contre, je te l'annonce, je prends un petit pari. On est en début de saison. Toulouse, c'est l'équipe qui va vraiment se prendre les pieds dans le tapis. Ils ont vendu tous ces fameux joueurs qu'ils ont recrutés par la data.
Attends, tu veux dire qu'il y a un fonds d'investissement qui allait faire du trading de joueurs dans un club et que l'année d'après, ça se pète la gueule?
Exactement, parce qu'ils vendent tous et parce qu'ils en reprennent d'autres qui seront, à mon avis, pas tout de suite. Peut-être qu'ils leur souhaitent le meilleur, mais je pense pas.
Bah, pas du tout. On leur souhaite de crever. Hein.
Et là, en plus, ils ont la Coupe d'Europe cette année. Donc, ils jouent deux matchs par semaine et ils sont pris en poule. Donc, au moins pendant jusqu'à Noël, ils vont jouer deux matchs par semaine. Et vu la gueule de l'équipe, ça sent l'équipe qui va jouer le fond de classement. Donc je pense que Toulouse, quand ils viennent à la Méno, on leur éclate leur gueule.
Dans tous les sens.
Mais Monaco, je sais pas toi, mais vous, moi je sens que ça va être compliqué quand même.
Moi je vois pas un monde dans lequel on gagne si on joue comme quand on a joué contre Lyon. Moi, je trouve que la victoire à Lyon est un peu une victoire en trompe-l'œil. Et...
Mais ça, on ne sait pas. On saura que dans les autres matchs.
On ne sait pas. Je ne contamine pas avec mon pessimisme ambiant. Hein.
Mais après, c'est sûr qu'on est toujours mieux en ayant gagné même en trompe-l'œil qu'en ayant fait un super match.
On a perdu
ce qu'on a déjà. Mais effectivement, Monaco, c'est Monaco qui est encore au rendez-vous, même si c'est peut-être plus le Monaco du top 5 qu'on connaît, mais ils sont encore très très bons, et cette année encore très très bons avec Ben Yedder en tête. Après Toulouse, moi je suis un petit peu d'accord avec Julien, on leur éclate leur gueule. Et après il y a Nice, un petit peu interrogant, on sait jamais où les mettre.
Ouais, mais Nice c'est un stade qui nous réussit bien depuis 2-3 ans, leur nouveau stade, on est pas mal dedans. Moi je pense que Nice ça va être une équipe relativement moyenne cette année, ils ont pas fait de folie ni dans un sens ni dans l'autre.
Ça sera l'air trop, enfin l'air trop.
Patrick Vieira.
Il y avait Vieira, oui.
Ouais, moi je sais pas, Nice ça pue le match nul à 2 km.
Ouais, un partout, but de Belgique.
Alors on partirait, et ça serait pas mal, on fait une défaite à Monaco, une victoire contre Toulouse et un nul contre Nice, et on est sur un début de saison qui est pas dégueulasse.
Si on a 7 points au bout de 4 matchs, je trouve que ça serait vraiment bien.
Je tiens à dire que je souscris pas du tout à cette vision totalement optimiste et qui n'est pas du tout en accord avec l'esprit original de Radio Stoop, mais.
C'est vrai, parce qu'on peut même pas, on n'a même pas prévu de demander la démission de Marc Keller. On prévoit une émission spéciale après la première défaite. Voilà, bah, là on est un peu à court terme. Donc allons, Ross 3 Nicox qui nous demandait.
Bah, il nous demandait tout simplement un prono sur le classement du Racing cette saison. Alors très compliqué au bout d'un match avec Mercato pas terminé, mais on peut...
Bien sûr, on peut ça. Nous, on n'a pas peur de mettre nos couillasses sur la tablasse, comme on dit dans le bouchonnois.
Alors moi, je vais me lancer. Je vois très bien une magnifique 9e place, tu vois, tranquillement au milieu du classement. Rien à espérer, rien à craindre.
Moi, je... 9e, ça veut dire une saison sans risque, où il se passe rien.
Ça dépend.
Parce que on se fait chier. Ouais,
on se fait chier. La dernière saison du Racing où on se fait chier, où il se passe rien, c'est quand? C'est il y a plus de 15 ans, non?
Non,
il y avait une saison là où on s'est avec Thierry Laurel, là, on s'était.
Parce qu'on joue la Coupe d'Europe et qu'il y a.
Non, la saison où ça avait été arrêté par le Covid, on a fini 10e.
On s'était
fait chier.
Non, hein, c'est pas la saison du Covid.
Saison est pas arrivée.
On gagnait, on perdait.
Non, c'est pas la saison. Oui, celle-là, mais c'est nul. Non, il y a la saison. La saison où on gagne la Coupe de la Ligue. Après la Coupe de la Ligue, on arrête de jouer, mais on sait qu'on peut plus descendre.
Ouais, mais la Coupe de la Ligue, c'est un fait marquant dans la saison.
On gagne la Coupe de la Ligue début mars.
Oui, mais c'est quand même
après,
saison un peu exceptionnelle.
Oui, bon. Un peu, mais au niveau du terrain, c'est bon.
Non, tout ça pour dire que, non, évidemment, le Racing va se battre pour son maintien et va finir 16e.
16e. Alors attends, je vais le noter quand même. Les pronos.
Donc on est au barrage, quoi.
Ouais.
Roulian 9e, Alex Coupe,
mais pas mon nom, tu
16e. moi je me mouille pas du tout, moi j'aurais dit 10e. C'est le truc vraiment. Ah putain, mais on est même pas 10e, ça veut rien dire parce qu'on est même plus 20. Ni
tu mets 9e, t'es à la moyenne. 9e,
ouais, mais il est déjà
à la moyenne.
Je suis à la moyenne, moi je vois vraiment pas un exploit, mais je vois vraiment pas qu'on soit inquiété, quoi. J'aurais du mal à croire qu'avec un effectif, avec là les petits jeunes, ils vont payer pour apprendre, c'est-à-dire qu'ils vont de temps en temps se faire berner, on va perdre des matchs à la 95e et des choses comme ça. Mais je les vois aussi, s'ils ont été recrutés par notre cellule de recrutement, c'est que manifestement ils vont avoir un petit peu de talent, et sur certaines fulgurances, on va remporter des matchs, parce que il faut globalement gagner 10 matchs. Chaque année, il faut gagner 10 matchs et prendre quelques points encore sur des... 10 matchs, on en a déjà pris un. L'année dernière, la première victoire, c'était la 10e journée.
C'est vrai.
C'était hyper dur d'engager. Après, il en fallait en engager 10 sur les 24 qui suivaient. C'est déjà plus la même. Là, franchement, prendre 10 victoires et gratter 3-4 points, ça ira bien. On a quand même un avis cette année nouveau des équipes en fin de classement, genre Le Havre, Toulouse même, Metz. Il y aura quand même de quoi remplir.
Metz qui a bien commencé le championnat.
Puisqu'on peut un peu dire du mal de Metz.
Bien sûr, toujours.
Ils font sec 5-1 et Oukidja fait du match.
Oui, j'ai vu.
Et sur 4 buts, il repousse le ballon dans les pieds de l'attaquant. Et il est élu homme du match. Mais il faut voir les buts, c'est incroyable. Il repousse 4 fois le ballon dans les pieds de l'attaquant qui marque dans le vide.
Donc oui, moi 16e parce que je pense qu'on va être dernier, mais que quand Vieira sera limogé en mi-saison,
scénario catastrophe, scénario un petit peu Racing.
Avec notre nouvel entraîneur qui sera, je ne sais pas.
Frédéric Antonetti, évidemment.
Non, Pascal Duprat.
Évidemment.
Est-ce qu'on a encore quelques questions Minitel pour finir? Et on serait pas mal, on serait à 1h30, c'est ce qu'on s'est fixé. Hein, pour respecter la nouvelle charte Radio Shtoub.
Voilà, c'est convivialité, tolérance.
Combien de tolérance c'est,
Alors, Radio Shtoub peut-il lancer un rapprochement avec Fulham?
On n'a pas compris. Donc, c'est qui a posé cette
question? Flexifoil 1664.
Eh ben, écoute, Flexifoil 1664, reformule ta question pour le prochain Radio Shtoub, s'il te plaît.
Il y a Nicolas qui a reposé une question. Combien a gagné Marc Keller en vendant le club? Alors, bien malin celui qui sait. La seule chose qu'on sait, c'est que dans
notre ami 75.
C'est que quand Godin est revenu de vacances, il a balancé dans son premier article.
Fois 20, non, je crois.
Ben, il a dit que sur les 75 millions d'euros, il n'y en avait que 40 pour les
actionnaires.
Les actionnaires, et il y en avait 35 qui ont servi à alimenter le fonds de recrutement. Donc en fait, potentiellement, si on en croit Dark Godin, qui est l'émanation de JP Dark qui met au DNA, a priori... Ouais, mais il écrit dans les DNA aussi, puisque c'est le même organe, les articles sont publiés dans les deux journaux. A priori, les actionnaires ne se sont mis que 40 millions dans la poche.
Mais fois 20.
Le club était valorisé 2 millions donc, par rapport au capital qu'ils avaient mis.
Et Marquella, elle avait combien?
À l'époque, lui, il avait 30%. Il avait 30% des 2 millions, donc je te laisse faire le calcul.
Ça fait exactement 600 000 euros.
Ouais,
600 000 euros fois 20.
Voilà, ça fait. Hein,
ça fait 12 millions.
12 millions d'euros. C'est un bon investissement. Quand tu mets 300 000 balles dans un club, non, 600 000 balles, c'est un très bel appartement à Strasbourg et tu le revends 12 ans après, 12 millions. Moi, je connais pas beaucoup d'investissements aussi rentables. Si vous en connaissez, vous nous écrivez en commentaire, vous likez la vidéo.
Non, vous écrivez en MP. En MP.
Autant d'années, il y a moyen.
Non, pas sur un arbre. Pas
sur un club, mais. Ah, d'autres secteurs.
Donc, vous croyez? Donc, on est d'accord, si on en revient à la discussion du début de truc, il y a quand même moyen de faire de l'argent en revendant un club.
Ah, bah, de toute façon, c'est même l'objectif de.
D'ailleurs, je vous engage tous à acheter des actions du FC
Sochaux. N'hésitez pas à être sociaux, bien sûr.
Et une question qui n'a pas été posée, donc, une question de Alex Co sur Twitter.
Sur Twitter?
Les investissements dans la féminine, voilà, c'est tout, c'est la question. Non mais on est en pleine Coupe du Monde féminine, j'ai l'impression qu'il y a plein d'arrivées chez les féminines.
Une américaine, j'ai vu.
Ouais.
Genre elle s'appelle Ghislaine Belly, c'est ça, non?
Bah je sais pas, moi je suis pas les féminines, je sais juste qu'on peut les voir gratuitement pour aller...
Si tu es abonné.
Si tu es abonné. Comme aller voir l'équipe 2, comme à tort, qui se plaignait que l'équipe 2 a une préparation avec beaucoup de vues.
Et on a été très attentifs sur la question, on réserve notre réponse pour le prochain épisode.
Là j'attends, parce qu'on est en train de compiler toutes les données sur...
Mais pas mal.
Je pense qu'on est bien.
Je pense. Bah, en tout cas, merci à tous les radios Shtoubistes d'ouverture qui sont venus aujourd'hui.
Oui, notamment JP Darky qui nous a apporté son expertise.
Voilà. Et puis, j'ai dit Radio Shtoub, c'est de la merde. J'ai coupé au bout de 10 minutes. Ça c'est les commentaires.
C'est les commentaires truc. Mais n'hésitez pas à couper au bout de 10 minutes.
Je connais pas Radio Machin Bidule.
Tous les gens qui nous écoutent pas jusqu'au bout, n'hésitez pas à couper. Mais mettez surtout le hashtag Radio Shtoub, les likes, les pouces levés.
Le bad buzz, nous on aime ça.
Voilà. Et le compte OnlyFans de JP Darky.
Évidemment.
Voilà. Et bien sûr, allez,
Racine.
S'il doit y avoir une équipe professionnelle en Alsace, on sait bien que ça ne peut pas être une autre équipe que le Racing.
Je trouve ça un peu désolant, mais après, franchement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Voilà.